22h30 ou quelque chose comme ça. Et par ailleurs, il est directeur scientifique du LEPAC, un laboratoire de géopolitique qui travaille sur, avec des chercheurs sur les aspects géostratégiques et géopolitiques. Et récemment, M. Victoire a passé sur Arte, il y avait deux émissions sur les aspects énergétiques concernant l'Europe, plus particulièrement. Donc je pense que c'est des aspects qui vont revenir ce soir. Voilà, M. Victoire, à vous la parole. Donc pour environ 45 minutes... Ah non, je m'excuse, j'ai oublié Didier Moreau, à force de tergiverser. Voilà, Didier Moreau.
Rapidement, merci. Donc, bienvenue à cette seconde soirée de notre forum sur les énergies. Je voulais simplement rappeler, avant de donner la parole à Jean-Christophe Victor, la logique de ces débats, quatre débats, pour mieux comprendre les enjeux de cette question énergétique. En sachant que, mais ça ne vous étonnera pas si je vous dis ça, cette maison qui côtoie depuis 15 ans la pensée complexe d'Edgar Morin et de ses réseaux internationaux a toujours souhaité aller au-delà des apparences, en dessous des cartes, et au-delà des données telles qu'elles apparaissaient et éventuellement qu'elles apparaissaient tronquées ou déformées par telle ou telle information, tel ou tel réseau. Donc, quatre débats qui sont complétés par une multitude d'animations, de projections. Concernant ces quatre débats, la logique était une logique qui finalement nous permettait de se poser la question, c'est que sais-je ? C'est une logique qui est extrêmement proche de la philosophie de Montaigne. Et surtout, que puis-je savoir ? Là, on est du côté de Hegel ou de Kant. Que puis-je savoir ? Pour se poser cette question, il faut avoir des données différentes et des données nouvelles ou présentées différemment, ce que Jean-Christophe fera ce soir. Mercredi, nous aurons des témoins de Tchernobyl et de Fukushima qui seront là. Et là aussi, on ira au-delà des apparences, au-delà des chiffres, pour vous permettre ensuite de vous faire une idée de ce qu'est cette dimension du risque industriel nucléaire et de remettre tout ça en perspective. Et jeudi soir, nous souhaitons que les données qui auront fait l'objet de débats sur ces trois soirées puissent faire l'objet d'une synthèse et surtout donner un rendez-vous au Poitevin pour les prochaines années afin de bâtir ensemble un projet collectif sur une évolution de ce territoire en termes énergétiques. Donc Jean-Christophe Victor, d'une certaine manière, nous apporte à la fois un éclairage méthodologique, un éclairage thématique, mais aussi nous permet peut-être d'envisager, à travers son intervention, une collaboration future sur la mise en place d'un au-dessous des cartes sur l'énergie à Poitiers et dans cette région. Si d'aventure vous voulez aller plus loin, en partenariat avec la librairie Gibert, il y aura des supports DVD du dessous des cartes qui pourront être dédicacés par notre ami Jean-Christophe. La parole est à vous. Merci.
Bien, bonjour à vous tous. Je me réjouis de passer une heure ou deux avec vous et à Poitiers. L'essentiel de mes activités, c'est le travail de recherche et de restitution de la recherche dans le laboratoire que j'avais créé il y a une vingtaine d'années en quittant le ministère français des Affaires étrangères. C'est un laboratoire qui a deux particularités. Le premier, c'est qu'il est pluridisciplinaire pour traiter des questions internationales. Démographie, histoire, économie, sociologie, et moi je suis un petit peu le généraliste. Deuxième particularité, il est privé. C'est une boîte privée qui... J'étais convaincu que seule l'indépendance économique me permettrait l'indépendance politique. Et j'ai vraiment bien fait. Et ça suppose évidemment certaines contraintes de type économique, mais elles sont finalement tout à fait stimulante. Donc, la particularité de ce labo, c'est donc analyse, prospective, transmission des connaissances, formation. Nos clients, c'est souvent, très souvent, formation des dirigeants d'entreprises ou dirigeants politiques ou militaires en France et à l'étranger. L'idée, c'est, part d'un constat assez simple, dans les sociétés démocratiques qui sont les nôtres, on sait énormément de choses. Nous captons énormément de données. Le problème, après, c'est de ranger ces données. Donc l'idée, c'est de faire comprendre plutôt que faire savoir. Aider à ranger, aider à hiérarchiser. C'est ce que je vais tenter de faire pendant 40 minutes aujourd'hui. J'avais calculé un exposé de 50 à 60 minutes. On me dit d'aller, de faire plus court. Donc, je vais me conformer à cette demande. Donc, vous êtes, ne vous étonnez pas si je saute certains graphiques qui demandent une explication un petit peu fine. Et donc, on y reviendra après dans le débat, si, si vous le souhaitez. La structure de cet exposé, c'est les évolutions démographiques hein, dans les années qui viennent. C'est la matrice, la démographie. C'est la matrice. Si on veut faire de la prospective, c'est démographie et études des systèmes éducatifs. Et comme ça, vous voyez ce qui se passera à peu près dans 10 ans, dans 20 ans. Deuxièmement, j'analyserai la, l'augmentation de la demande énergétique, qui est absolument constante. Je cartographierai la répartition de la ressource, hein, qui est très inégale. Les circulations et les dépendances. Quelles projections on peut faire hein. Le lien avec le changement climatique, bien évidemment. Et si j'ai le temps, je vous parlerai des calendriers démocratiques contradictoires hein, sur la gestion de nos sociétés. Alors, je vais aller un petit peu vite sur la démographie. Mais on a ce premier schéma qui est intéressant parce qu'il est spectaculaire. Il est assez clair et on peut retenir deux choses. Trois choses. D'abord, une très grande constance dans la quantité de population humaine sur la planète Terre, en gros jusqu'au à la fin du 18e siècle, 19e. À cette époque-là, hein, 19e, il y a donc même pas 200 ans, il se passe deux choses fondamentales, la révolution industrielle, l'urbanisation, le début de l'urbanisation, des politiques de santé publique qui commencent et une modification de l'hygiène. Ce qui fait qu'on va avoir un changement radical. Les femmes, à cette époque-là, enfin jusqu'à cette époque-là, avaient en moyenne 5 enfants, elles en perdaient 4. Là, elles ont toujours 5 enfants et elles en gardent 4. Et c'est le début de ce phénomène majeur qui s'est passé au XXe siècle, qui est ça. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le XXIe siècle ne ressemblera pas au XXe siècle. La population mondiale continue à augmenter, mais plus lentement. On va vers une sorte d'apogée avant plateau, non pas périgée, vers 2050-2060, on sera autour de 9, 10, 11 milliards, et la rapidité de la croissance de la population est beaucoup plus faible. Donc on ne reproduira pas au XXIe siècle ce qui s'est passé au XXe. L'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le monde vieillit. Il y a de plus en plus de vieux dans le monde, parce que l'espérance de vie augmente. Ça change complètement la structure des sociétés, et je dirais même l'économie des sociétés. Maintenant, si on regarde dans l'espace, on voit que les proportions sont différentes. Je vais vous montrer une carte en ce qu'on appelle en anamorphose, c'est-à-dire qu'elle est modifiée en fonction de la donnée. Hein. Là, vous avez une carte un pour un. Hein, on a fait des continents comme des îles. Hein, et vous avez le territoire en 1 pour 1, puis on va le faire bouger en fonction de la donnée démographique. Donc vous voyez, en 1950, l'Europe, hein, jusqu'à la frontière russe, fait 18% de la population, le continent africain 8%, l'Inde 18%, 23% pour la Chine. Okay. Aujourd'hui, l'Europe n'est plus qu'à 8,6% de la population mondiale. Le continent africain a doublé, l'Inde a un peu augmenté, la Chine commence à baisser. Et dans 20 ans, 30 ans, l'Europe continue encore à baisser, le continent africain continue à augmenter, l'Inde est à peu près stable et la Chine continue encore à baisser. Ce qui fait qu'il y a deux phénomènes extrêmement importants hein, et qui dessinent les contours de la future demande énergétique. C'est que le grand continent, en tout cas sur le plan démographique du XXIe siècle, c'est le continent africain. Deuxièmement, la Chine est en proportion de moins en moins peuplée. C'est-à-dire qu'avec la politique de l'enfant unique en Chine, vous n'avez pas suffisamment de femmes pour la reproduction de la société chinoise. Vous savez que dans une société confucéenne comme la société chinoise, il est important d'avoir un garçon. Et dans une famille, si on a le droit qu'à avoir un seul enfant, quand c'était des petites filles, pardonnez ma vulgarité, poubelle. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a, je crois, 106 garçons pour 100 filles. Et ça modifie là aussi la structure de la société chinoise. On dit souvent la Chine sera vieille avant d'être riche. Alors, il y a une chose intéressante concernant la Chine, parce qu'on entend quand même un certain nombre de bêtises. La Chine faisait 36% de la population mondiale en 1800. Aujourd'hui, elle ne fait plus que 20% de la population mondiale. Donc les fantasmes démographiques autour de la Chine ne sont plus adaptés. Ce sont des fantasmes de type occidentaux, et il me semble inadapté quand on veut travailler un petit peu sérieusement. L'autre phénomène très important qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, c'est le déplacement des taux de croissance. Je voudrais venir au déplacement des taux de croissance. Les taux de croissance, vous le savez aussi bien que moi, ils sont en Asie. Ils sont en Asie depuis une vingtaine d'années, quinzaine d'années, dizaine d'années, avec en particulier, tout le monde a à l'esprit l'Inde et la Chine, bien entendu, mais elle est accompagnée de plus en plus et de mieux en mieux par l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, la Corée du Sud, la Thaïlande. La croissance européenne, vous la connaissez comme moi. La croissance américaine est supérieure, elle est entre les deux. Mais ces différentiels de croissance qui sont très importants, hein, de plusieurs points. Hein. Vous savez qu'on est autour de 6, 7 en Asie, 8, 9 pour la Chine. Europe, vous connaissez, États-Unis, on en est autour de 2,5, 3,5, 4. Ces différentiels font qu'aujourd'hui, la locomotive économique du monde est en Asie. Et donc vous avez deux facteurs qui jouent. Vous avez la croissance démographique forte en Asie, d'une part, et la croissance économique forte en Asie, d'autre part. Et ces deux phénomènes font que, là aussi, le XXIe siècle sera tout à fait différent. Ce ne sera pas un siècle atlantique, ce sera un siècle pacifique. Il sera tout à fait différent de ce qu'on a connu. Et cette croissance, évidemment, elle s'applique sur quoi ? Sur la demande énergétique. Alors le schéma que j'ai préparé là en mégatonnes, hein, équivalent pétrole, est intéressant parce qu'on est, je crois, sur 50 ans, hein, 1960-2010. Et vous voyez là, la constance de l'augmentation de demande d'énergie, hein, absolument constante. On a une augmentation absolument année après année. Alors on peut détailler cette croissance couleur par couleur. Alors, c'est assez simple, vous voyez, continent africain, il est en jaune. En bleu, 13%, 14%, c'est l'Europe, hein, hors Russie. Ça, c'est la Russie, on parle. Les Amériques, les États-Unis représentent 19% de la consommation mondiale, de la demande mondiale, excusez-moi. Ils sont ici. L'Asie est là, et ça, c'est la Chine. Alors, il y a trois choses où j'attire votre attention. Tout est en augmentation, mais il y a des stabilités. Parce que vous regardez, par exemple, pour le continent africain ou même pour l'Europe à 27, on est en augmentation, mais une relative stabilité par rapport à 1960, vous voyez ? Alors que pour les États-Unis, on est en augmentation, et pour la Chine, c'est encore plus net. Précisément pour la Chine, parce que les taux de croissance sont en augmentation. On a donc des différentiels en valeur absolue et en valeur relative. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, on le voit bien par secteur. Maintenant, si on le regarde par... excusez-moi, on le voit bien par région, et on regarde maintenant par secteur. On a là, en résumé, les grands secteurs consommateurs d'énergie. Hein. Les ménages, c'est le domestique. Les transports en bleu ciel, l'industrie et production d'électricité. Et là, vous êtes sur une durée de temps qui va de l'an 2000 à 2030. Donc ce qu'on retient, si vous voulez, déjà de ces deux schémas, c'est la constance de l'augmentation avec une affectation particulière de cette augmentation pour les États-Unis et pour la Chine en général et l'Asie en particulier. Alors comment se répartit la ressource. Ce qu'on appelle la ressource, c'est simple, c'est charbon, gaz, pétrole et les renouvelables, dont la biomasse, l'éolien, etc. L'essentiel de la ressource, et le nucléaire, bien entendu. L'essentiel de la ressource, on en est toujours sur ce schéma-là aujourd'hui, c'est le fossile. Hein. C'est les énergies carbonées, c'est-à-dire charbon, gaz, pétrole. Elles se répartissent à travers le monde avec la plus complète inégalité de répartition géographique. Donc c'est ça qu'on va regarder avec les trois grands secteurs qui nous intéressent pour le moment, c'est-à-dire les énergies fossiles. Alors, quand on regarde la répartition des réserves mondiales, on reprend les couleurs, vous voyez, vous avez à gauche le pétrole, au milieu le gaz, et à droite le charbon. Alors, vous voyez, pour le pétrole, 54,5% de la ressource est au Moyen-Orient. Donc, vous voyez le différentiel par rapport au reste du monde. Hein. Il est à 17% en Amérique du Sud centrale. Très peu de pétrole en Europe. Très peu de pétrole en Europe, alors qu'il y en a en Russie. Quand vous regardez sur le gaz naturel, la Russie est très riche. Et l'Europe l'est un petit peu. Le Moyen-Orient est également très riche. Je vais vous montrer une carte tout à fait intéressante sur les ressources en gaz qui sont au Moyen-Orient. Et quand vous regardez le charbon, l'Europe est riche, ainsi que la Russie. L'Asie-Pacifique l'est également, et le continent africain ne l'est pas. Donc vous voyez un petit peu les grandes répartitions de ces énergies fossiles. Il me semble qu'on peut retenir que le pétrole est avant tout au Moyen-Orient et en Asie centrale, et on en découvre de plus en plus sur le continent africain. Si j'ai le temps, je vous parlerai assez longuement des découvertes qui sont en train d'être faites sur les types de pétrole. Et la deuxième chose, c'est que le charbon reste très présent. Vous savez que la Chine, l'Inde, mais aussi les États-Unis utilisent abondamment le charbon. C'est pas parce que nous, on n'utilise plus, d'abord parce qu'on était moins riches et ensuite il y a eu les reconversions qu'on connaît, qu'il faut penser que le charbon a disparu comme énergie disponible à travers le monde. Je voudrais vous montrer cet escargot, je vais vous le décrire. Certains des schémas que vous voyez là ont été élaborés pour un atlas que nous avons sorti qui s'appelle Atlas des futurs du monde, qui est sorti à la fin de l'année dernière aux éditions Lafond. Et nous avons récupéré les données, nous les avons produits en graphes sur ces questions-là, hein. Démographie, énergie, environnement, société. Et une fois les graphiques faits, les graphiques, c'est utile, mais c'est moche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les graphiques, souvent, c'est laid. C'est utile, mais c'est laid. Alors, on a fait appel à un cabinet de graphistes en leur demandant de faire en sorte qu'ils soient beaux. Et on a dit, mais tu réfléchis et tu penses à Mondrian, tu vois. Tu penses à Kandinsky. Tu penses à Sonia Delaunay. Et tu nous sors quelque chose d'un peu plus joli. Et à mon avis, le résultat est pas mal. Alors, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle les visual economics, c'est-à-dire de continuer à sortir des graphiques qui sont beaux. Et moi, je les aime bien. Et celui-là, il est tout à fait inhabituel. Il est tout à fait inhabituel, donc il demande une petite aide à la lecture. D'abord, vous avez l'échelle du temps. Hein. Là, on est en 1960. Et là, aujourd'hui, on est là. Et ça, c'est projection, hein, dans 10 ans, dans 15 ans, 2030, d'accord ? Ensuite, ça, en abscisse, vous avez les millions de barils par jour. Et les couleurs correspondent tout simplement aux régions productrices de pétrole, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on observe de façon nette ? Afrique du Nord, Moyen-Orient, c'est là. Et donc, vous voyez qu'il y a une relative stabilité. Il n'y a pas une très forte augmentation de la production au Moyen-Orient et en Afrique. Hein. Alors qu'en Afrique subsaharienne, on a une augmentation qui n'est pas négligeable. Vous voyez l'augmentation aujourd'hui et qui se poursuit. Hein, parce qu'on trouve un certain nombre de gisements en Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, ça se traduit très bien par les investissements qu'on voit à Sao Tomé et Principe, en Angola. Des investissements dans les hydrocarbures, en particulier le pétrole. Donc là, vous avez une sorte de schéma prévisionnel de la distribution géographique de production de pétrole. Alors, le schéma, il est quand même assez fin, parce que vous voyez, ici, par exemple, vous avez une secousse. Vous voyez ? Et puis vous en avez une autre ici. Et puis je crois qu'il y en a une autre ici. Alors c'est simple, c'est la traduction directe d'événements politiques ou économiques. Là, vous avez la traduction du choc pétrolier de 1973. Pardon, ici. Là, vous avez la traduction du choc pétrolier de 1979. Et là, vous avez la traduction de la crise dans laquelle nous sommes. Donc c'est finalement assez, un outil assez fin de visualisation d'un phénomène à la fois géographique et temporel. Alors, ça, c'est les réserves mondiales de charbon, où on en est aujourd'hui. Et on a modifié la carte en fonction de l'anamorphose, c'est-à-dire qu'on a grossi ou réduit les pays en fonction de leur richesse en charbon. Donc ça confirme ce que je vous disais. Vous voyez comme l'Asie et la Russie et l'Australie sont riches, hein, les États-Unis aussi. Vous voyez comme l'Europe, pas tellement, mais bon, la Pologne a été un pays charbonnier, on le sait. Et l'Afrique disparaît de la carte. Il n'y a que l'Afrique du Sud. L'Afrique disparaît de la carte et n'a pas de charbon. Alors, on peut prendre la même technique pour analyser le gaz. Là, c'est très amusant. On voit bien les pays riches en gaz et ceux qui ne le sont pas. Regardez le Qatar. Regardez le Qatar. Le Qatar est devenu une grande puissance et sera une grande puissance à cause du gaz. Alors simplement, comme les Qataris, les dirigeants Qataris sont intelligents, ils ont compris qu'il fallait investir. C'est en gaz naturel liquéfié qu'ils sont très riches. Hein. Alors ils investissent dans des programmes d'équipement culturel absolument superbes. Ils achètent le Louvre, ils achètent la British Library. Donc tous ces grands équipements, ainsi que des grands équipements universitaires, s'installent au Qatar. Et en plus, ils ont une diplomatie extrêmement active. Vous savez qu'ils ont été des acteurs majeurs dans la crise libyenne. Donc très intéressant le Qatar. Donc là, vous avez la carte du monde de la disponibilité du gaz. Elle est intéressante à connaître parce que la production de gaz et la consommation de gaz pour répondre à la demande va être en augmentation constante. Il faut savoir que le gaz sera une des sources d'énergie importantes au XXIe siècle. Vous voyez les évolutions des réserves mondiales de gaz naturel sur une période de temps relativement courte, une trentaine d'années. Alors j'ai mis aussi la répartition mondiale des ressources en gaz de schiste. Comme il faut que je me dépêche, je ne vais pas développer sur le gaz de schiste, mais j'attire votre attention sur que contrairement au gaz, le gaz de schiste est mieux réparti. Hein. S'il est utilisé et qu'on trouve des solutions technologiques autres que la fragmentation hydraulique, le gaz de schiste, vous voyez, a une répartition géographique à travers le monde qui rééquilibre les richesses potentielles. On n'en est pas là, mais je la trouve assez intéressante. Voilà un petit peu les éléments qu'on a pour les énergies fossiles. Donc je vais venir maintenant aux autres ressources énergétiques et analyser avant la circulation et la dépendance. La circulation, parce qu'il faut savoir que vous avez les ressources et vous avez les consommateurs. Et elles sont parfois pas du tout au même endroit. Pas du tout au même endroit. Donc il faut déplacer la production. Ce qui est un facteur d'analyse pour la fabrication des prix. Le transport coûte. Vous pouvez observer, par exemple, que l'Europe, grande densité humaine, hein, est proche du gros producteur qu'est le Proche-Orient, alors que la Chine en est loin. Vous pouvez analyser comme ça l'ensemble des réalités entre production et consommation. Ça dessine aussi ce qu'on appelle le problème de... Vous savez que l'essentiel du transport de l'énergie se fait soit par tube, soit par bateau. Alors vous avez les gazoducs, les oléoducs pour les tubes, puis vous avez les bateaux, les cargos. Et l'histoire de ce transport par cargo, vous savez que l'essentiel de notre commerce mondial, à 82%, se fait par la voie maritime. On a tendance à l'oublier quand on vit dans des sociétés économiques Internet comme les nôtres, mais en volume, hein, je ne dis pas en valeur. Mais l'essentiel se fait par bateau. Donc le maritime garde une importance considérable. Ce qui, évidemment, sur les questions énergétiques, amène le problème suivant, c'est quid de la sécurité maritime et quid de la sécurité des détroits. Les détroits, c'est important, les canaux, c'est important, parce que vous avez, si vous voulez, pour des canaux ou des détroits importants comme Suez, comme Panama, comme la Manche, Gibraltar, Dardanelles, Bosphore, Malacca, détroit de Formose, détroit de Drake. Ce sont des clés, alors là, au sens premier, des clés géopolitiques. Et donc, il est important que ces détroits restent libres. Donc, ils sont très surveillés, contrôlés par les grandes marines mondiales, militaires. Et qui a des grandes marines mondiales militaires pour contrôler cette clé de notre économie mondiale? Pas de surprise, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, à un degré moindre, le Japon et la Russie, et la Chine. Mais la Chine participe à des contrôles à l'échelle régionale et pas à l'échelle mondiale. Donc ça vous dessine un petit peu une carte du monde pour ce transport. Il faut que vous sachiez, par exemple, que dans la Manche ou à Suez ou à Panama, c'est un bateau toutes les 6 minutes. Vous voyez ce que ça donne? C'est absolument considérable. J'étais à Istanbul l'autre jour, vous êtes devant le Bosphore, les bateaux, vous en avez au mieux toutes les 10 minutes. Donc vous voyez ce que ça suppose comme importance et vous voyez ce que ça suppose comme risque. Risque à la sécurité et risque à la pollution aussi. Donc cette petite digression, parce que c'est vraiment une clé du commerce mondial et donc une clé de l'utilisation de l'énergie et du transport. Donc quand on regarde les principaux flux commerciaux pétroliers, je crois que c'est simple. Regardez vers où converge le bout des flèches, hein, là et là. C'est l'arrivée, la destination, et regardez où se trouvent les petits ronds de départ, hein, péninsule arabique. Essentiellement, l'Afrique dont je vous parlais tout à l'heure et de plus en plus, l'Algérie, hein, qui est un producteur important, la Norvège, qui est un producteur important. Voilà, si vous voulez, la géographie de la circulation économique de l'énergie à travers le monde. Le schéma pour le gaz n'est pas le même, parce que le gaz est plus difficile à transporter, plus cher à transporter. Pour le gaz naturel liquide, par exemple, ça suppose d'avoir d'énormes méthaniers, hein, qui sont coûteux. Il faut compresser le gaz. Et donc, vous avez des réseaux plus compliqués à mettre sur place. Et d'autre part, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous n'avez pas de marché mondial pour la fixation du prix du gaz. Ce sont des marchés régionaux. Vous n'avez pas de marché mondial comme pour le pétrole. Vous avez des grandes ressources comme ça, vous n'avez pas de marché mondial. C'est intéressant. L'eau, dont on parle beaucoup, l'eau a la particularité de ne pas avoir de marché mondial et de ne pas pouvoir être transportée. Alors que le pétrole a un marché mondial et qu'il est transportable. Donc, vous avez donc des considérations et des configurations radicalement différentes selon ces grands outils pour nos économies mondiales dans leur transport. Bon, alors, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Didier disait tout à l'heure, effectivement, on a travaillé pas mal sur les fournisseurs d'énergie de l'Union européenne. Hein. Bon, voilà une carte de l'Union européenne et on montre en pourcentage les fournisseurs, hein, en gaz et en pétrole. On a regroupé. La Norvège est très importante, la Russie très très importante, et l'Algérie aussi à un degré moindre. Vous voyez, on a fait figurer volontairement la Libye parce que ça fait partie aussi des éléments de réflexion dans la guerre qui a été conduite en 2011. J'attire votre attention sur que les ressources en Norvège seront terminées en 2015-2020, à peu près. Donc la Norvège va baisser comme fournisseur de l'Union européenne, ce qui est embêtant. Les Norvégiens sont d'excellents gestionnaires. Ils ont anticipé cette baisse de la production pour 2020 et ils ont donc constitué, il y a longtemps, à partir de 1990, ce qu'ils appellent un FGF, c'est-à-dire un fonds pour les générations futures, une sorte de cagnotte d'État, un fonds souverain qui va pouvoir servir à partir de 2030-2040 pour les générations de Norvégiens qui n'auront pas la ressource de pétrole pour assurer le budget national. Il y a très peu de pays qui font ça. Moi, je suis très admiratif dans la gestion des deniers publics et la gestion du temps prévisionnel. Bon, je me dépêche un petit peu. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. L'Union européenne est dépendante de la Russie, puisqu'elle est à peu près à hauteur de entre 25 et 30% des importations de gaz. Donc elle a financé un gazoduc par le sud qui contourne la Russie, vous voyez, et qui permet d'utiliser les énormes ressources qu'il y a en Asie centrale, de les faire transiter par la Turquie et qu'elle arrive directement en Union européenne. Nabucco devrait ouvrir dans un an ou deux, je crois. C'est un très gros investissement. Mais c'est très important. D'abord, vous voyez le différentiel. On pourra importer 30 milliards de mètres cubes par an de gaz, d'une part, et ça modérera d'autant la dépendance vis-à-vis de la Russie. L'autre chose qu'il faut rappeler, la Russie aussi est très dépendante de l'Union européenne. Il est évident que si une si grande part de son gaz a face à elle un seul importateur, la Russie aussi est très dépendante. Donc la dépendance n'est pas à sens unique. Répartition des ressources d'uranium et des réacteurs nucléaires. Alors on voit bien la géographie de l'uranium et des utilisateurs. La couleur en bleu foncé, ce sont les pays dotés de ressources d'uranium, comme vous pouvez le voir ici. Donc des pays comme le pétrole, comme la Russie, comme l'Australie sont bien dotés, le Niger qui est connu, l'Afrique du Sud. Et l'essentiel des réacteurs en construction pour le moment, c'est en Chine. Et on va vers une poursuite de la tendance, si vous voulez. Si vous voulez, dans le débat, on parlera du nucléaire et des mix énergétiques, mais on va vers une poursuite de cette tendance. Alors, quatrième et je crois avant-dernier chapitre, quelle projection, quelle probabilité ? On en vient donc à aborder la question du mix énergétique et en particulier du mix énergétique mondial. Là, les graphes, c'est 1980, 2010 et après, on est sur des projections. Alors, vous pouvez observer plusieurs choses. Le charbon est en augmentation, comme je vous le disais. L'hydroélectricité aussi. Le problème est de savoir si l'hydroélectricité est ou n'est pas un renouvelable. Il y a débat autour de ça, évidemment. Très faible augmentation des renouvelables, comme vous le voyez. Et poursuite de ce qu'on appelle déplétion de la fourniture en pétrole. Alors, je voudrais m'arrêter un petit moment sur ce qu'on appelle le pic pétrolier et vous parler des ressources. Voilà. Ce qu'on appelle le pic pétrolier... pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moment où on a atteint le point de disponibilité maximum du pétrole avant une baisse. La baisse, on l'appelle la déplétion. Alors, c'est un gros débat autour du pic pétrolier pour savoir quand c'est. Il y a débat parce qu'on est dans une configuration un peu bizarre qui fait que ceux qui détiennent la ressource, c'est-à-dire les compagnies et mais les pays, sont aussi ceux qui détiennent l'information sur la ressource. Ce qui n'est pas le cas dans... vous n'avez pas d'autorité indépendante comme l'Agence internationale de l'énergie, par exemple, qui est une autorité indépendante. Pour le pétrole, vous n'avez pas ça. Et donc, les producteurs et les États, comme ce sont eux qui fournissent les informations, ce sont eux aussi qui fabriquent les prix. Et l'information, c'est co-fabricateur du montant du prix du baril du pétrole. Et c'est une anomalie, à mon sens, majeure en économie moderne. Alors, voilà pourquoi vous avez plusieurs appréciations du temps, du calendrier du pic pétrolier. Et dans les schémas là, que on a préparés, il n'y a qu'un seul institut qui est indépendant, et je vous invite à aller sur son site, qui est le ASPO, c'est américain, Association for the Study of Peak Oil. Allez sur le site de ASPO, c'est très intéressant. Ils expliquent comment ils calculent, comment ils recoupent les données, et pourquoi il y a débat, non seulement pour ces problèmes de détention de l'information et de la ressource, mais aussi parce que c'est en évolution constante. Et c'est en évolution constante parce que la demande change. Quand l'économie mondiale est en bonne santé, la demande augmente. Quand vous avez une récession, vous l'avez vu sur les graphes tout à l'heure, la demande a tendance à baisser, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'il y a des variables. D'abord, c'est des découvertes de nouveaux gisements. Il n'y a pas tellement de découvertes, mais il y en a quand même. Ensuite, vous avez des pays en guerre, riches en pétrole, où on ne peut pas accéder à la ressource. L'Irak va refournir du pétrole, alors que ça faisait un certain temps que ça n'était pas possible. La technologie change aussi. La technologie change. Aujourd'hui, vous êtes capable, en 2012, avec la nouvelle technologie, d'aller plus profond ou d'aller forer horizontalement, ce qui n'était pas possible il y a 10 ans. Nouvelle technologie aussi, ce qu'on appelle le offshore profond. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on forait en mer à 30 mètres. Aujourd'hui, on est à 800 mètres. Et dans les années qui viennent, on pourra forer à 2000 mètres. Ça n'était pas possible avant. Donc, on peut avoir accès à des nappes auxquelles on n'avait pas accès. Quatrième élément, le pétrole lourd. Pétrole lourd, c'est les sables bitumineux de l'Alberta, au Canada, dans le Roanoke, au Venezuela, qui fait qu'on a à nouveau de la ressource par rapport au pétrole conventionnel. Le problème du pétrole lourd, il me semble que j'ai un autre schéma. Oui. Là, on a commencé à intégrer les réserves non conventionnelles. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Ça fait une dizaine d'années qu'on arrive à exploiter le pétrole lourd. Faites-vous passer des photos des mines d'extraction des sables bitumineux de l'Alberta au Canada. Regardez sur Google. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Très impressionnant. Le problème, c'est que ça n'a de sens que si le prix du baril est élevé. S'il est bas, ça coûte trop cher d'aller chercher le pétrole lourd. Ça coûte trop cher. Hein. Ça coûte un baril pour en extraire deux. Donc, vous voyez, la marge est très faible. Hein. Voilà ce qui change. Vous voyez, la géographie de la disponibilité des gisements. Et donc, le pic pétrolier, il bouge tout le temps. N'empêche que, globalement, il y a moins de pétrole qu'avant. Ce qui fait autre variable que je vais aborder tout à l'heure, le changement climatique. Le changement climatique va donner accès à des ressources dans l'Arctique auxquelles on n'avait pas accès il y a 10 ans et on n'avait même pas pensé qu'on y aurait accès dans 20 ans, il y a 20 ans, vous voyez. Et donc, tous ces éléments font que on n'est pas quasiment pas sur une science exacte, vous voyez, on n'est quasiment pas sur une science dure. l'idéal, vous voyez, en fonction de, des idées qui sont les miennes, serait le bon prix du baril, le prix exact plutôt. C'est 80, 90, 100 dollars le baril, à peu près. Quand on passe, comme au mois d'août 2009 à 148, vous avez quasiment 20 à 25% qui est d'ordre spéculatif, strictement spéculatif. Alors, vous avez l'augmentation de la demande chinoise, hein, finalement, qui a été très forte, mais vous avez quand même 20% qui est spéculatif. Donc, le bon prix du baril, c'est autour de ça. Plus il est cher, plus on s'oriente et de plus en plus vite vers des renouvelables, vers des investissements dans les énergies renouvelables. Hein. La biomasse, l'eau moteur, l'énergie venant des marées, l'éolien, tout ce que vous connaissez. Donc, la bonne configuration, ce serait un baril à 350 dollars. Ce serait la bonne configuration. Parce que, et de façon durable, pas 6 mois. Là, en 5 ans, on arriverait vraiment à changer les choses. Merci. Il me reste 10 minutes. Donc, alors, j'aborde les renouvelables et après, je terminerai par des questions plus politiques. Vous avez vu les schémas tout à l'heure. On reste dans une vingtaine d'années avec 70% de la ressource qui reste les énergies fossiles, ce qui est, à mon avis, une mauvaise chose. Mais vous avez une progression de l'éolien et du solaire qui est très importante. Mais en valeur relative, c'est très faible. Par rapport à ce que c'était il y a 15 ans, l'augmentation est forte et on le voit bien ici. Vous voyez, sur 15 ans, c'est très intéressant de voir l'énergie solaire en mégawattheure passant de 453, je crois qu'on est en mégawatt, oui c'est ça, à 40 000 aujourd'hui. Donc l'augmentation est absolument considérable. Mais ça reste en valeur relative relativement faible par rapport à l'utilisation du pétrole. Il y a autre chose aussi qu'il faut avoir à l'esprit pour les années qui viennent, c'est que le pétrole, il faudrait l'utiliser là où il est bon. Et il est bon pour le transport. Hein, c'est une énergie d'une très grande intensité énergétique et assez léger et facile à transporter. Donc il faudrait le garder pour le transport et ne pas l'utiliser pour le chauffage et l'industrie. Et l'industrie, d'ailleurs, s'adapte beaucoup plus vite que le secteur des transports et le secteur des motorisations, par exemple. Donc, ceci pour vous faire remarquer qu'il y a une augmentation très forte, mais elle reste faible à l'échelle mondiale. Vous avez à peu près le même schéma pour le géothermique et les agrocarburants. Je parlerai volontiers des agrocarburants. Et donc, ce sont des schémas qui sont assez parlants. Alors, je voulais vous montrer ça, l'absurdité du système dans lequel nous sommes. C'est à peu près 7500 km pour fabriquer un yaourt à la fraise en République fédérale allemande, transporter les produits, la feuille d'aluminium, la demi-fraise, chez le grossiste, etc., etc. On est sur des schémas totalement absurdes. Totalement absurdes. On est autour de 7000 km. Pour un blue jean, c'est 12 000 km dans le monde, à peu près. Un blue jean, les blue jeans que vous portez, pas moi aujourd'hui, c'est 12 000 km. Entre le cuivre de la fermeture éclair, la façon aux Philippines, la teinture au Mexique, etc., etc., on est sur un modèle, à mon sens, qui est tout à fait absurde. Ce qui est intéressant, avant que j'oublie, c'est que si on bascule de façon plus nette vers le renouvelable, on relocalise les productions. On relocalise les productions. Et on évite tout ce dont je viens de vous parler pendant une demi-heure, qui est un schéma qui existe depuis une centaine d'années, si vous voulez. Mais c'est quand même assez intéressant de penser qu'il y a relocalisation des productions, et même pour l'hydroélectricité aussi. Alors, j'ai terminé par les émissions de CO2. Vous savez tous ce que ce sont les gaz à effet de serre. Regardez le schéma qu'on a fait, hein, en 40 ans, c'est tout à fait net. Oui, c'est ça, 1960-2010. Hein, l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone. les glaciologues qui travaillent en Antarctique, je dis en Antarctique, c'est intéressant parce que c'est les archives du climat, l'Antarctique. Hein. Vous savez, vous faites des forages, des carottes de glace, et vous analysez les bulles d'air qui ont été emprisonnées dans la glace et qui décrivent la composition de l'atmosphère terrestre il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans. Donc, ce sont les archives de la Terre. Et les glaciologues, en analysant cette composition de l'atmosphère dans les bulles, font une corrélation tout à fait directe entre le début massif des énergies fossiles à partir de 1830, les émissions de CO2 et l'augmentation de la température. Et c'est ce que montre, si vous voulez, ce schéma. Donc, en conclusion, je voudrais vous dire deux, trois choses. Les dernières diapos que je voulais vous montrer, c'est l'Arctique. L'Arctique est une région du monde où je vais à peu près une fois par an. C'est une région qui m'intéresse beaucoup pour à la fois des raisons personnelles, familiales et politiques et climatiques aussi. Parce que l'Arctique, l'Antarctique aussi, mais à un degré très légèrement moindre, c'est le canari de la planète, si vous voulez. Hein, vous savez, avant, on mettait les canaris dans les mines de charbon. C'est la sentinelle, quoi. Et la réalité du changement est ahurissante, absolument ahurissante. La fonte des glaces, la vitesse et l'ampleur de la fonte des glaces est absolument ahurissante. Vous avez de moins en moins de banquises, à la fois en superficie, en épaisseur et en durée. C'est-à-dire que l'embâcle est plus tardive, au mois de mars, et la débâcle est plus tôt. Superficie, il y en a de moins en moins. Vous voyez, là, on est en 2005, là, on est en 2007. Et ça pose problème aussi pour les grands animaux. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est tout à fait intéressant. Or, il se passe en Arctique, la possibilité de l'exploration et de l'exploitation des ressources énergétiques, et qui est un problème économique et politique, voire une solution politique et économique. Parce que si on se place du point de vue des Groenlandais, qui sont 58 000, hein, là je parle des Inuits et des quelques Danois qui habitent là-bas, avec l'accord qu'ils ont trouvé avec la puissance de souveraineté qui est le Danemark, à partir du moment où il y aura exploitation du pétrole, elle sera partagée entre le Danemark et le Groenland, jusqu'au moment où le Danemark n'aura plus besoin de contribuer au budget du Groenland. Hein. À ce moment-là, le Groenland a toutes les chances de devenir indépendant. Alors c'est une question, à mon avis, très intéressante, et on peut finir par là. J'étais à nouveau en juin au Groenland, justement pour participer à un séminaire du gouvernement groenlandais sur les avantages et les inconvénients d'une indépendance du Groenland. Et la discussion m'a semblé extrêmement intéressante parce que pour les Groenlandais, l'idée, c'est d'explorer. L'exploration a commencé, aussi bien sur le plan des minerais que sur l'offshore, hein, mais aussi d'exploiter. Et je leur faisais remarquer qu'ils sont dans une contradiction totale. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à exploiter du pétrole qui contribue justement par le réchauffement climatique à modifier les 10 000 ans de mode de vie qui est le leur. Alors d'un côté, ils se plaignent de ce changement climatique et de l'autre, en se mettant eux-mêmes à explorer, ils vont y contribuer. Et donc c'est une contradiction qui est vraiment très forte et dont on, j'allais dire, dont on n'est pas prêt de sortir. On va donc passer au débat, mais vous voyez, j'ai abordé à peu près toutes les questions en allant un peu trop vite sur certaines. Donc si je résume la démographie, l'augmentation de la demande, les répartitions, les dépendances et les grands flux maritimes, les émissions de CO2, les projections. Et je voudrais terminer sur ce que j'appelle les calendriers contradictoires. Vous m'avez demandé de faire un exposé sur les énergies, quelle stratégie et quelle dépendance. Ce que j'appelle calendrier contradictoire, c'est ceci. Il me semble, si vous voulez, que dans les systèmes démocratiques qui sont les nôtres, avec les institutions démocratiques que nous avons la chance d'avoir, Il y a on est sur un calendrier court, hein, 5 ans. Aux États-Unis, c'est 4 ans. Au Royaume-Uni, c'est 4 ans. Enfin, ces démocraties, vous connaissez, on est sur un calendrier court. Et les décisions à prendre demandent une vision, une compétence, mais une connaissance qui serait plutôt sur 15 ans. Voyez. Et donc, il y a une contradiction entre, le service public, le service à la collectivité, en prenant certaines décisions qui doivent être prises dans un mandat très court, par rapport à ce qui serait bon pour la génération qui va suivre. Et ça me paraît d'autant plus préoccupant que le calendrier, c'est aussi le calendrier de retour à une stabilisation des émissions de CO2. Et là, on n'est même pas sur du moyen terme, on est sur du long terme. Or, ce long terme, c'est aussi le calendrier de nos enfants. Et donc, je trouve qu'il y a une contradiction très forte dans notre démocratie actuellement par rapport à ce qui va se passer en 2025, 2030, 2035. Et la deuxième contradiction que je vous fais apparaître, les négociations climatiques à Cancun, à Copenhague, dans un mois, s'ouvrent Durban, en Afrique du Sud, sont des négociations très compliquées. Très compliquées parce qu'elles ajoutent plusieurs couches, voyez-vous. D'abord la couche scientifique, l'acquisition des données. Et vous voyez comme le GIEC est parfois approuvé, parfois discrédité. Donc il y a la donnée, la standardisation des appareils statistiques. Quel appareil juridique ? Il faut créer des lois, il faut créer une imposition carbone, c'est tout à fait nouveau. La couche économique, l'air de la guerre, c'est évidemment ça. C'est le dialogue très difficile là-dessus entre la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie d'une part, et d'autre part les pays de l'OCDE, dont les États-Unis et nous, parce qu'ils disent « mais nous sommes dans un calendrier différent ». Aujourd'hui, nous sommes dans une croissance que vous avez connue il y a 40 ans, 50 ans. Et donc, ces négociations climatiques touchent au cœur de l'économie. Et puis, dernière chose, vous avez le calendrier politique. On voit bien que le président Obama n'est pas totalement libre de ses décisions à cause du Congrès. Il en est de même en France, où on a un actuel président de la République qui lance un projet extrêmement intéressant qui s'appelle le Grenelle de l'environnement et qui change... Le législateur n'a pas voté la totalité de ce qui était prévu parce qu'on a un calendrier politique, économique, mais aussi politique. On est donc dans des contradictions très fortes et des choix qui sont extrêmement complexes à faire. Donc on a regardé une géographie un petit peu large, un temps assez long. On a fait un petit peu de prospective. Et je vous remercie de m'avoir écouté.
Bon, il y a évidemment une foultitude de questions qui doivent vous jaillir à l'esprit. Alors, on va prendre peut-être 5 ou 6 questions pour vous ayez le temps de faire une petite pause et grignoter un petit peu. Alors, je prends les mains qui se lèvent dans l'ordre. Voilà. Vous pouvez vous présenter si vous voulez.
Je voudrais poser 2 questions. L'une concernant la démographie. La démographie chinoise, bon, elle est basée essentiellement sur l'enfant unique. Rien ne dit que les autorités chinoises vont poursuivre indéfiniment cette politique, puisqu'il y a en plus, de la part d'une partie de la population chinoise, une forte demande pour le deuxième enfant, et surtout la partie la plus évoluée de la population urbaine. Deuxième question, c'est à propos du pétrole. Le pétrole, bon, c'est les transports, tout ça, vous l'avez rappelé, mais c'est aussi une quantité de produits et sous-produits qui permettent de fabriquer, je dirais pas un peu tout, mais énormément de choses. Alors... en admettant une baisse de la ressource pétrolière, bon, il y a déjà des essais de remplacement à partir essentiellement de végétaux, enfin de matières végétales. Bon, la question est de savoir si on va pouvoir faire la jointure entre les deux, quoi.
Oui, c'est très intéressant. La question n'est pas tranchée au sein du comité central du Parti communiste chinois. La question n'est pas tranchée parce que s'ils autorisent 2 enfants, il y a donc un problème de démographie chinoise. S'ils n'autorisent pas, il y a un problème de stabilité sociale. parce que vous avez effectivement, la Chine a beaucoup changé, enfin tout le monde le sait, mais les Chinois ont beaucoup changé. Vous avez aujourd'hui une classe moyenne, vous avez une classe très riche, scandaleusement riche. Je dis scandaleusement parce que quand on regarde l'indice de Gini en Chine, les inégalités, c'est ahurissant ce qui s'est passé en 20 ans. Vous avez une classe moyenne. La Chine est quand même arrivée à sortir 300 millions de personnes de la pauvreté en 20 ans. Chapeau. Et puis, vous avez une classe rurale qui reste pauvre. Donc, dans cette classe moyenne, vous avez de plus en plus de, entre guillemets, manifestations de type social, hein, de type salarial, ou même pour l'environnement. Hein. Il y a des gens qui sont empoisonnés dans les villes. Donc, vous avez des mouvements qui n'existaient pas avant. Puis vous avez, qu'on le veuille ou non, Internet, qui n'est pas totalement libre, mais qui existe quand même. Et donc, la question de l'avenir démographique de la Chine n'est pas tranchée totalement au sein du Parti communiste. Donc, moi, je ne peux pas vous apporter la réponse que les Chinois n'ont pas apportée eux-mêmes encore. Mais quoi faire ? Que faire ? Sur le deuxième, élément de question, à savoir que avec les dérivés du pétrole, on fabrique énormément de choses, notamment le plastique. Est-ce qu'on va pouvoir assurer la transition ? Alors écoutez, moi je ne suis pas chimiste, ni physicien, ni fabricant de jouets en plastique. Mais alors là-dessus, je ne suis pas inquiet du tout sur par quoi on pourrait remplacer tous ces produits dérivés. Effectivement, les végétaux, il y a énormément de produits qui peuvent se faire à partir des végétaux. Donc on peut très bien imaginer. Mais vous savez, on est sur des temps très très longs. Hein. J'allais dire malheureusement, parce que c'est vrai que pour un certain nombre de choses, j'aimerais bien que ça aille plus vite en matière de changement climatique. Mais on est sur des temps très très longs. Regardez, il y a combien de temps qu'on avait encore des bouteilles de lait en verre ? C'était quoi, il y a 30 ans ? Bon, le plastique s'est substitué. Donc là, on est aussi sur une échelle de 30 ans pour remplacer des objets par d'autres. Donc sur le deuxième point, je suis pas très préoccupé là-dessus, je veux dire.
Très bien, merci. Monsieur ?
Bonsoir, merci pour votre exposé. J'ai senti un petit peu d'inquiétude dans votre conclusion, au risque d'enfoncer le clou. Pensez-vous que le réchauffement climatique nous laisse le temps de gérer cette transition énergétique ? Ou dit autrement, n'y aurait-il pas à notre disposition trop de charbon et trop de pétrole encore ?
Mais, once more, it's economy. It's economy, comme disent les Américains. La réponse n'est ni dans votre question ni dans la mienne. Elle est dans, comment dire, la façon dont fonctionne le modèle économique mondial. Et en plus, il n'y a pas de modèle alternatif. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez plus de contre-puissance, de contre-pouvoir. Hein, l'économie planifiée a été un échec absolument total. Aujourd'hui, vous n'avez qu'un modèle économique. Et d'ailleurs, c'est bien ce modèle économique-là, c'est-à-dire le capitalisme, qu'a adopté la Chine, que je sache. Et donc, il n'y a pas du tout d'approche critique du modèle économique. Et c'est ce qui fait fonctionner, comment dire, la fabrication de la croissance. Alors là-dedans, se dire, est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on est dans un bon calendrier ? Est-ce qu'on n'utilise pas un peu trop le... La réponse est oui. La réponse est oui, on utilise trop d'énergie fossile, mais j'allais dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix en termes d'investissement, tout simplement. C'est pour ça que tout à l'heure, et je ne plaisantais pas, je souhaite un baril à $350, parce qu'à ce moment-là, la contrainte, elle existe. Et il y aurait une accélération des investissements dans des économies décarbonées. Donc sur le calendrier, oui, je suis préoccupé, d'autant plus qu'il y a moyen, vous avez des pays qui vont vite et qui vont plus vite que nous. Une fois encore, la Chine investit énormément dans la croissance verte. La Corée du Sud, c'est étonnant. Vous savez, vous verrez, dans 2020, vous aurez le Japon et la Corée du Sud qui auront déposé 60% des brevets sur l'énergie verte. J'étais à Séoul il n'y a pas longtemps pour étudier cette question-là. Ils vont très vite.
Et ils vont très vite parce que c'est une démocratie et en même temps, sur un projet d'intérêt national, ils sont capables de travailler la collectivité nationale et le service privé et le secteur privé en même temps. Hein. Donc là-dessus, ils vont très vite. Mais je pense que vous posez la bonne question. L'autre réponse, si vous voulez, qu'on peut faire, moi, ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes libre. Nous sommes libres. Vous êtes libre de voter. Vous êtes libre de changer vos comportements, moi aussi, vos mentalités. C'est long. Mais on sait beaucoup de choses. Aujourd'hui, ces débats, je ne les avais pas, moi, il y a 10 ans. Donc, de ce point de vue-là, les choses vont plutôt mieux sur le plan de la conscience, de la gravité, de la situation. Moi, je pense que ça m'inquiète beaucoup, beaucoup plus que quand j'étudiais la relation internationale, l'affrontement Est-Ouest entre Moscou et Washington. Vous savez, c'était très menaçant. Hein. J'ai eu l'histoire des fusées Pershing. Pour les plus jeunes, vous n'avez pas connu, mais c'était très menaçant. Ça ne m'a jamais beaucoup inquiété. Là, la situation m'inquiète beaucoup plus. Mais les choses sont aussi partiellement entre nos mains. On ne peut pas toujours dire « ils, ceci, c'est trop loin, c'est trop grand, c'est trop tard ». Non, on peut changer nos comportements, on peut faire évoluer nos mentalités. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais le niveau de conscience augmente. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de petite goutte d'eau. Parce que souvent, mes étudiants, ils me disent « Oui, mais à mon échelle, à quoi ça sert ?» etc. Je pense le contraire. Je pense qu'à l'échelle de chacun, c'est très utile. Et puis, regardez les évolutions quand même des consommations, des habitudes. Regardez un petit détail qui est rien, mais qui n'est pas rien. Combien de temps il nous a fallu pour nous débarrasser des sacs plastiques dans les supermarchés ? En un an, ça a été terminé. Donc, il n'y a plus de sacs plastiques maintenant qui traînent. Il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Donc je pense qu'on peut changer les choses aussi, les comportements, les mentalités, les décisions. C'est pas simple. Mais c'est schizophrénique. Parce que je tiens ce discours-là, mais j'ai un iPhone. Vous voyez ? Je tiens ce discours-là, mais j'habite à la campagne et j'ai une voiture, voire plus. Parce que j'habite à la campagne et qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc c'est schizophrénique. Mais
on va peut-être poursuivre juste pour qu'il y ait encore quelques questions.
Oui, je prolonge la question. Aujourd'hui, le problème, c'est le modèle économique qui gouverne tout. C'est le sacro-saint PIB, mais on n'a rien trouvé d'autre. Et finalement, quand on a dit qu'il y a eu l'échec total des économies planifiées, enfin, etc., qu'on connaît, c'était des échecs locaux, même si le local pouvait prendre des dimensions importantes. Mais l'échec qu'on évoque aujourd'hui, c'est un échec auquel on peut tous contribuer, tous ensemble, c'est l'échec global. C'est-à-dire personne ne sera épargné. Comment vous voyez la réinvention d'un autre modèle qui ne soit pas le modèle économique ? Aujourd'hui, on est en pleine crise de la planète avec les ressources, crise du CO2, et on continue à utiliser les mêmes outils en disant que le thermomètre... faut le casser parce qu'il donne pas la mesure qui nous ferait plaisir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut inventer d'autre, quoi ? C'est toujours le PIB, et l'économique qui gouverne le tout.
C'est difficile de répondre. Alors, on s'est mis à travailler sur le modèle économique. Donc, on commence. Quand je dis on, c'est les gens au labo et on voudrait essayer de sortir un livre et un livre cartographié dans un an pour repérer tout ce qui est déjà entamé, vous voyez ? Parce qu'il y a quand même des processus, des protocoles. Les travaux de Amartya Sen sont intéressants. Les travaux de Joseph Stiglitz, l'Américain, sont très intéressants. Mais face à ça, vous avez au mieux des inerties et des habitudes, au pire des résistances très fortes. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait ces résistances. Donc je ne peux pas vous faire une réponse précise sur quel autre modèle économique. Pour ma part, ça va peut-être vous surprendre, je n'accorde pas beaucoup de crédit à ce qu'on appelle la décroissance. Ça, moi, je n'y crois pas du tout. parce que ça fait partie des mécanismes, des moteurs. C'est tout de même la croissance qui permet à des millions de gens de ne plus être à 2 dollars par jour, tout de même. Et ce modèle économique que vous critiquez, et moi aussi, il est producteur et destructeur. C'est ça le paradoxe. Il est très producteur. Il crée de la richesse et il est très destructeur. Il crée énormément de pollution. Quand vous savez, par exemple, que le PIB mondial a augmenté de 32% entre 1990 et 2010, c'est-à-dire que, en fait, la Terre est plus riche, mais les inégalités sont beaucoup plus importantes qu'avant. Et donc, il est producteur et il est destructeur. Comment réduire à rien la partie destructrice, je ne sais pas. Mais j'ai participé le 14 septembre dernier aux Assises nationales des déchets. L'Assise nationale des déchets, c'est pendant 2 jours, ça se tenait à Nantes, où le ministère ministère de l'énergie, du développement, il y a plusieurs casquettes, le MEDED ou le MEDAP.
Ministère de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement.
Celui dont la ministre est Kokyus-Komorizet. Pendant 2 jours, c'était les acteurs de ce ministère et les acteurs de la filière des déchets. Et c'était de faire le point sur le traitement des déchets. Et la philosophie, l'objectif, c'est comment supprimer le déchet. Comment transformer le déchet en produit ? En produit réutilisable, en matière première. Et c'était très intéressant. Et énormément de choses se font là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, nos déchets augmentent sans arrêt, et en même temps, ils sont de plus en plus réutilisés. Et ils sont de moins en moins déchets. Vous voyez ? Ils perdent ce statut de déchet. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font de ce point de vue-là. Et on est dans une situation un petit peu paradoxale, c'est qu'on a un petit peu du mal, je trouve, à avoir des nouvelles de ce qui va bien. Et je suis un peu critique vis-à-vis des gros médias, et c'est pour ça que je pense qu'il faut changer de lecture aussi. Moi, je n'y plus là. Enfin, lisez les revues. Les revues, c'est absolument passionnant. Sur ces questions-là, sur les questions économiques, sur les questions politiques, moi, j'ai changé. Depuis 3-4 ans, j'ai vraiment changé de la façon de m'informer. Il y a énormément de choses qui se font, et cet exemple des déchets est tout à fait intéressant. Donc, je réponds maladroitement à votre question, ou en tout cas de façon tout à fait incomplète. Mais comment dire ? Je pense qu'on n'est pas aidé non plus par la financiarisation de l'économie. Hein ? On l'a vu très très nettement avec les conséquences que ça a. Par le fait que finalement le placement rapporte plus que l'industrie. Oui. Ça pose d'énormes problèmes. Donc ça ne répond pas à la question sur le plan du modèle économique, mais vous avez un livre très intéressant qui est sorti, je pense, il y a un an, qui s'appelle « Prospérité sans croissance ». Et c'est de Tom Jackson. C'est traduit en français. Je pourrais vous retrouver l'éditeur. Je vous donnerai mon adresse si vous voulez. C'est très intéressant. Et lui, il travaille vraiment. C'est un bouquin d'économie, hein, économie et mathématiques. Prospérité sans croissance. C'est un petit éditeur économique et que j'ai lu il y a longtemps, 6 mois, 7 mois. Et si vous voulez, si vous me donnez vos coordonnées, je pourrais vous retrouver l'éditeur. Ma réponse est incomplète. Hein, tout à fait incomplète.
Bien, on va prendre encore 2 questions.
Et après, on ouvrira les fenêtres, hein, parce que qu'est-ce qui fait chaud ?
Il fait très chaud. Alors, je ne sais plus si c'est vous, monsieur.
Oui, vous êtes passé très vite sur l'agroénergie. Et je voulais vous demander si, finalement, du point de vue de la planète, ce n'était pas un bien pour un mal.
Oui, c'est ce qui apparaît peu à peu, effectivement. C'est une question compliquée. Hein. C'est une question compliquée. À l'heure actuelle, il semble qu'effectivement, les biocarburants ou les agrocarburants soient de plus en plus en compétition sur le plan des surfaces utilisées avec la production alimentaire. Bon. J'ai tendance à penser, d'après les données qu'on a, qu'il y a plusieurs problèmes. Et c'est c'est parce qu'on est aussi sur ce qu'on appelle la première génération des agrocarburants. Et des recherches très poussées sont faites, notamment chez BP, British Petroleum, sur les biocarburants de deuxième génération, c'est-à-dire qui n'utiliseraient pas des surfaces utilisables pour faire pousser du maïs, mais qui utiliseraient des éléments, ce qu'on appelle des éléments de la biomasse, hein, comme par exemple les ronces. Les ronces ou la jatropha. La jatropha, par exemple, il y a des tests qui ont été faits il n'y a pas longtemps pour transformer de la jatropha en kérosène. Et le kérosène a été utilisé dans un Boeing 747 de Air New Zealand. C'est intéressant. Et ça, c'est les biocarburants de deuxième génération. Le problème, c'est que quand on discute avec ceux qui sont compétents, ce qui n'est pas mon cas sur ce sujet, ils disent le problème, on rejoint cette question de calendrier, ils disent on n'est pas prêt. On a besoin de 10 ans pour les biocarburants de deuxième génération. Donc qu'est-ce qu'on fait entre 2010 et 2020 ou 2010 et 2025 pour justement utiliser différemment la biomasse? Deuxième problème lié à ça, enfin, il y en a beaucoup hein, sur les agrocarburants, c'est qu'effectivement, il y a quand même plus d'émissions de CO2 que ce à quoi on s'attendait. La deuxième chose, c'est, n'oubliez pas que c'est quand même concomitant dans le calendrier avec ce phénomène qu'on observe depuis une dizaine d'années maintenant, c'est sur la location ou l'achat de terres arables par certains États dans d'autres États. Et c'est à peu près le même calendrier. Et donc, effectivement, vous commencez à avoir une tension sur la disponibilité des terres arables à cause du phénomène des biocarburants et à cause de la location ou de l'achat des terres. On sort de ce schéma si on va vers une deuxième ou une troisième génération de biocarburants. Donc là encore, on est sur un calendrier qui, a priori, ne fonctionne pas. Ou plutôt, il fonctionnera. C'est-à-dire qu'on va... ce ne sera pas tout à fait business as usual, mais ça s'en approchera.
Très bien, merci. Alors, une dernière question pour finir cette partie.
Bonjour.
Je ne vous vois pas. Est-ce que vous auriez l'amabilité de vous lever? Ouais. Merci.
Vous n'avez pas abordé a priori les économies d'énergie et l'efficience énergétique. Or, il semble qu'il y a un gisement aussi important, si on en croit le scénario négawatt. Mais peut-être qu'à l'échelle mondiale, ça n'a pas le même rapport. Donc, qu'en pensez-vous ?
Je ne suis pas sûr de bien saisir. Je n'ai pas abordé la question des économies d'énergie.
Et l'efficience énergétique.
Ah oui.
Voilà.
Oui, oui.
J'ai vu un documentaire hier à Mendes France où on parlait par exemple au niveau des veilles d'ordinateurs, ça représentait 10 réacteurs nucléaires.
Ah oui. Oui, merci d'aborder cette question-là. Je ne l'ai fait que l'évoquer très rapidement tout à l'heure en disant il y a des modifications de comportement qui sont entre nos mains hein, sur les veilles. Pas toutes. Oui, effectivement, monsieur disait, il y a aussi l'échelle industrielle, mais il y a aussi l'échelle domestique. Oui, à cet égard-là, il y a un certain nombre de modifications qui doivent être faites. Les déperditions sont considérables, hein, vous avez tout à fait raison. Ça me permet de vous montrer ce schéma qui vient de l'Atlas des futurs. On voit bien, vous voyez, la production d'énergie qui est là et la perte qui est là, vous voyez. Et donc, en fait, il y a des déperditions absolument considérables. Alors, il y a les mécanismes de veille, comme vous l'évoquiez. Il y a aussi le secteur de l'habitat, hein, où il y a des pertes absolument considérables. Et vous voyez, par exemple, dans le secteur des transports, hein, routier, aérien, ferroviaire, fluvial, vous avez dans le secteur industriel, hein, aciérie, métallurgie, papier, alimentation. Et donc, vous avez des marges de récupération d'énergie qui sont absolument considérables. J'ajoute à ça le fait suivant, c'est identique pour l'eau, vous voyez. On nous pose très souvent la question sur l'eau. Est-ce qu'on va vers des crises de l'eau, de l'utilisation de l'eau au XXIe siècle? Il y a des gisements d'économie considérables. Et je me place dans nos régions, mais aussi dans les zones arides et semi-arides. Vous avez une déperdition d'eau absolument considérable, aussi bien en agriculture que dans l'industrie, que dans le domestique. Et donc, vous avez des gisements d'économie à faire, les fuites. Les fuites, vous avez 42% de pertes au Caire. 42% d'eau qui est perdue dans les fuites dans la ville du Caire. Paris est très bon, il est à 7 ou 9%, ce qui est, paraît-il, très bien. Et donc, de ce point de vue-là, oui, vous avez raison, il y a des pratiques à modifier. Des choses se font, simplement, c'est très lent. Et il est assez difficile d'avoir sur ce thème-là une information cohérente, je trouve. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous.
Je pense qu'on reprendra ce point dans la discussion tout à l'heure. Alors on va s'arrêter là pour que vous puissiez souffler un peu et grignoter ou boire. Je vous propose simplement ce livre. Je vous présente ce livre, pardon, on m'a demandé de le présenter. Donc c'est le dernier bouquin de Jean-Christophe Victor. Le dessous des cartes, itinéraire géopolitique. Peut-être dites-en deux mots, mais très rapidement.
Deux ?
Voilà. On va dire trois. Juste pour décrire le contenu, ça, j'imagine que c'est un contenu beaucoup plus varié que celui que vous avez, que la thématique que vous avez abordée ce soir. Très rapidement.
Oui, c'est le dernier livre itinéraire géopolitique que le labo vient de sortir. Donc, très rapidement. On a trois grandes parties. Le basculement du monde, c'est-à-dire où j'explique tous les facteurs qui font que le monde sera pacifique. Un chapitre sur les violences du monde, c'est-à-dire vous savez que vous avez un nombre de conflits qui est réduit. Vous avez moins de conflits aujourd'hui qu'en 1990. Mais c'est très difficile d'avoir un monde à zéro guerre et comme une société à zéro crime. Ça n'existe pas dans l'histoire. Donc on essaye d'expliquer quels sont les facteurs, non pas de criminalité, mais de conflictualité. Le dernière partie, c'est sur le passage des frontières, sur le monde mobile, le monde métis et la sécurité humaine. On a abordé aussi des thèmes qui sont importants dans la structure internationale, c'est les femmes au pouvoir. On essaie de voir où dans le monde elles ont et quel type de pouvoir. La Cour pénale internationale, qui n'existait pas il y a 10 ans. Et on a un dernier chapitre que j'ai appelé « Et pourtant le monde va mieux », où on a un tableau où on a pris la date de référence 1990-2010. On a pris une vingtaine de pays clés, pays OECD, hors pays OECD, et on a pris quelques secteurs. Et ces secteurs, ça va de mieux en mieux. Je pense au nombre d'enfants scolarisés dans le monde, aux fillettes scolarisées dans le monde. Les budgets de santé publique sont globalement plutôt en augmentation. Les budgets militaires sont en diminution. Alors, ça ne concerne pas le monde entier, mais vous avez une tendance. Vous avez des progrès importants dans l'abolition de la peine de mort. Donc vous avez un certain nombre de secteurs et beaucoup plus d'États démocratiques en 2010 qu'en 1990. Ça permet de voir les évolutions telles qu'on ne les voit pas d'habitude, peut-être, sur une échelle large et un temps assez long, et secteur par secteur. C'est aussi une analyse critique, et ça rejoint, je crois, ce que je disais à monsieur tout à l'heure, sur des médias qui ont besoin de faire peur pour faire vendre. Et je trouve que c'est finalement là aussi un système qui, moi, ne me satisfait plus, parce que on présente toujours les trains qui sont en retard et on finit par ne plus parler de tout ce qui se fait positivement dans toutes sortes de domaines, sur le plan industriel, sur le plan énergétique, sur le plan des sociétés humaines. Et donc ce dernier chapitre, c'est de dire peut-être parfois on peut chausser d'autres lunettes.
Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cet exposé. Ces informations. Donc on se retrouve à 9h. On a pris un peu de retard. Comme on a l'autorisation de déborder un peu, dans 25 minutes environ, pour qu'on ait le temps d'ensuite de bien approfondir tous les thèmes qu'il y a à discuter. Bien, on va reprendre cette deuxième partie. Les retardataires arriveront petit à petit. C'était un temps de pause un peu court. Peut-être rapprochez-vous parce qu'en fait la salle s'est un petit peu vidée. C'est pas plus mal que vous vous rapprochiez si ça gêne pas trop, de manière à ce qu'on soit on soit tous ensemble. Alors pour cette deuxième partie, ça va être un débat. On va essayer de reprendre des éléments d'information que nous a donné Jean-Christophe Vector, le point de vue mondial assez général, mais on va essayer d'aller évidemment vers quelque chose de plus régional, de plus local. Et essayer de voir s'il y a des correspondances entre ces différents niveaux. Évidemment, on peut considérer que dans certains aspects qu'a évoqué Jean-Christophe Vector, en particulier le rôle du politique, qu'il soit local, régional ou national, il y a là peut-être des marges de manœuvre possibles. Ça a été évoqué dans quelques-unes des questions qui ont été posées. Des marges de manœuvre possibles sur ces grandes tendances qui semblent comme ça absolument inéluctables. Jean-Christophe Vector l'a évoqué un moment en disant si le baril de pétrole est à $350, les choses changeront. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui peut faire passer le baril à $350? Est-ce que c'est le marché ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres influences? Alors sans parler de $350, il y a peut-être des niveaux intermédiaires qui permettraient peut-être d'influer sur le cours des choses. Donc la question telle qu'on pourrait la résumer, c'est peut-on influer sur le cours des choses? Et en particulier, ça a été aussi évoqué plus ou moins, les citoyens, les différents niveaux politiques au niveau d'un pays. On peut souhaiter en tout cas que le cours des choses soit quelque peu modifiable. Sinon, on peut se demander quel est l'intérêt de continuer à tout simplement. Je m'arrête là pour ces petites introductions. Alors, je vous présente les trois intervenants qui vont compléter le propos de Jean-Christophe Vector, qui arrivera lorsqu'il aura terminé son petit repas. Il ne fera pas l'introduction lui-même, mais il interviendra à son tour le moment venu. Commençons donc par Amandine Loeb qui va introduire cette deuxième partie. Donc Amandine Loeb est directrice de la REC. Elle vous redira exactement l'intitulé de la REC, l'Agence régionale de l'environnement, de l'énergie. Voilà, j'ai oublié. Marie-Claude Serré, qui est au milieu, donc travaille sur les bilans énergétiques au niveau de la ville de Poitiers dans la cellule d'activité fluide énergie. Elle interviendra en troisième lieu et Laurence Reynaud en deuxième lieu vous présentera un aspect de sociologue, un point de vue de sociologue, puisqu'elle travaille en tant que sociologue, donc plus de terrain sur les aspects énergétiques. Donc c'est un éclairage des éclairages qui seront très complémentaires, vous verrez. Amandine Loeb a préparé un diaporama qui sera assez bref, mais qui donnera quelques idées assez claires, dont on a besoin aussi pour raisonner au niveau régional. Donc quelques idées sur les grandes tendances, les grandes évolutions de l'énergie au niveau de la région Poitou-Charentes. Amandine Loeb.
Est-ce que le micro marche ?
Oui.
Oui. D'accord. Donc je suis en charge de l'AREC Poitou-Charentes. C'est une agence régionale. Donc on va zoomer. Hein. On est parti de considérations internationales géostratégiques. Et je vous propose de passer maintenant aux 1 700 000 et quelques habitants de notre région Poitou-Charentes pour faire un état des lieux énergétique. Donc notre structure, l'AREC Poitou-Charentes, a pour mission de mener des travaux d'observation à l'échelle régionale et infra, départementale, à l'échelle aussi de collectivités territoriales, de produire de la donnée qui se veut la plus juste possible et la plus précise possible, afin d'apporter les bons éclairages et la connaissance aux porteurs de politiques publiques, aux décideurs locaux, sur la situation régionale en matière d'énergie, de gaz à effet de serre. Nous travaillons également, donc ça c'est le sujet pour ce soir, mais nous travaillons également dans le secteur des déchets. Nous réalisons des enquêtes tous les ans sur la situation régionale en matière de déchets, et également sur la question de la biomasse. Donc notre vocation, c'est produire de l'aide à la décision, des chiffres locaux destinés à être partagés. À savoir, nous animons également des observatoires, comme c'est le cas de l'Observatoire régional énergie gaz à effet de serre, pour votre information, qui rassemble 25 partenaires locaux qui partagent les informations que nous produisons, que nous réalisons, de fait, à pouvoir disposer d'un socle commun de connaissances et d'informations sur la situation régionale en matière d'énergie, énergie renouvelable et émissions de gaz à effet de serre. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Donc, je vais vous proposer un mix de différents états des lieux qu'on a pu réaliser par le passé sur la situation, enfin les données les plus récentes que nous avons à disposition, sur la situation des lieux en matière énergétique en région Poitou-Charentes. Alors, voyez tout de suite que par rapport... Donc, deux constats, les graphes sont moches. Hein, c'est toutes mes excuses par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et de deux, vous voyez que l'unité utilisée, on est toujours sur des tonnes équivalent pétrole. On est passé de mégatonnes équivalent pétrole à des kilotonnes équivalent pétrole. Hein, ne nous trompons pas sur l'unité utilisée. Donc là, premier état des lieux rapide de la consommation d'énergie finale, hein, c'est ce qu'on appelle la consommation d'énergie en sortie compteur à l'échelle de la région Poitou-Charentes. Vous avez la courbe bleue qui présente l'évolution depuis l'année 90. On considère qu'en 90, on a 100, et puis on regarde l'évolution. Donc on voit qu'il y a une augmentation à peu près de 14% de la consommation d'énergie depuis 90. Et on voit la courbe verte, à titre de comparaison, la tendance nationale. Donc on suit peu ou prou la tendance nationale d'augmentation de notre consommation énergétique, avec un premier point à garder en tête par rapport notamment à ce qui avait été dit, c'est qu'on voit que depuis les années 2000, on est plutôt dans une stabilisation, voire une légère inflexion dans les dernières années, notamment du fait de la crise économique, avec une première typicité régionale, c'est que nous sommes sur un territoire à faible densité de population, donc ce qui donne une consommation ramenée à l'habitant un peu supérieure par rapport à la moyenne nationale, de 8 comparé à 2,53. Et on retrouve peu ou prou le profil de notre région Poitou-Charentes hein, dans un positionnement vis-à-vis des autres régions à 3,11% de la consommation régionale. Qui consomme de l'énergie en Poitou-Charentes ? Encore une fois, je vous fais un comparatif avec la France, toujours pour permettre de pouvoir identifier les secteurs surreprésenté ou sous-représenté par rapport à un niveau national, de fait, de façon à pouvoir commencer à distinguer des petites typicités de la région Poitou-Charentes. Donc on a un secteur, premier secteur consommateur d'énergie en région, c'est le secteur jaune des transports. Donc par transport, on entend à la fois transport de marchandises, mais également déplacement des personnes. Hein. Tout est pris en compte dans un seul tenant. Premier poste. Deuxième secteur, qui est le secteur en bleu, le secteur des résidentiels et tertiaires. Ensuite, on trouve l'industrie et enfin l'agriculture et la pêche. Première information de ce graphe, donc les secteurs prépondérants. On voit que par rapport à un niveau national, c'est le camembert, le petit camembert. On voit que la partie transport est surreprésentée par rapport au niveau national en région Poitou-Charentes. Ça, c'est lié à deux choses. L'importance des déplacements de personnes, puisqu'on est une région à vocation rurale. Donc on a besoin de voitures pour se déplacer hein, par rapport à une moyenne nationale. Rien de nouveau sous le soleil. Et point numéro 2, c'est que nous sommes dans une région de transit. Et notamment, il y a un axe de transit en direction de l'Espagne et l'intensité des transports internationaux notamment sont à l'origine de cette surreprésentation du secteur transport par rapport au niveau national. Donc enfin, bon, on a un secteur industriel aussi qui est un petit peu moins important que la moyenne nationale. C'est lié aussi à la typicité de notre territoire. Deuxième information, ça monte ou ça descend, ces secteurs les uns par rapport aux autres. Eh bien, il faut voir que les deux secteurs les plus importants, que sont d'une part le résidentiel tertiaire et d'autre part le transport, sont également les deux secteurs dont la consommation d'énergie a le plus augmenté depuis 1990, avec respectivement 14 et 18% pour chacun de ces secteurs. Deuxième information. Qu'est-ce qu'on consomme comme énergie en Poitou-Charentes pour continuer l'éclairage sur notre situation locale? 72%, mais on reprend des chiffres qui ont été énoncés à une échelle plus macro, 72% de l'énergie consommée est d'origine fossile, avec une prépondérance de consommation de produits pétroliers. Donc on a vu tout à l'heure la prédominance du secteur transport. Donc on voit le secteur transport, de toute façon, il n'y a pas photo, c'est en grande, grande majorité, plus de 95%, c'est des produits pétroliers. On n'a que ça pour se déplacer, et pour l'instant, et qui est à l'origine, qui contribue à ces 58%, mais également, on voit des secteurs consommateurs de produits pétroliers encore, comme le résidentiel tertiaire que nous avons vu également tout à l'heure. Alors, j'ai choisi un petit éclairage de se concentrer sur le secteur du résidentiel. On voit tout à l'heure, on a parlé résidentiel tertiaire en même temps. Il faut voir que 2/3 de ce grand secteur résidentiel tertiaire, c'est du résidentiel. Donc c'est l'énergie consommée pour les besoins de nos logements. Pour essayer de trouver des facteurs explicatifs. En moyenne, donc là, c'est un travail qu'on a fait sur les émissions de gaz à effet de serre, mais on suit la même courbe. On a une augmentation, là, pour les gaz à effet de serre, de 9%. Comment se décompose cette augmentation? Pour vous faire toucher du doigt, la concomitance de facteurs antagonistes à l'origine de cette augmentation de 9%. On voit aussi bien, ce que j'ai mis en vert, hein, pour faire un peu positif. Encore une fois, M. Victor, désolé, les graphes sont moches. Hein. Vous pardonnerez. Mais donc pour signifier que certes, nos logements sont de plus en plus... Ce sont des données issues des profils énergétiques des logements de Poitou-Charentes, hein, puisqu'on dispose de données de l'INSEE assez précises, des estimations des consommations énergétiques. Et on a pu disposer des profils énergétiques de nos logements sur l'ensemble de la région picto-charentaise. Donc certes, d'un point de vue de la performance énergétique, de fait, des rénovations progressives, de fait, des différentes réglementations thermiques qui ont permis de disposer de logements plus performants d'un point de vue énergétique. Donc c'est ce qui est à l'origine, ce qui peut tirer la courbe vers le bas, à l'origine du diminution de la consommation énergétique. C'est ce que vous voyez, la courbe basse. Je ne vais pas pouvoir emmener le micro. Ce sera peut-être mieux. Donc vous voyez que cette augmentation et la corrélation, certes, d'une performance énergétique accrue qui tend à pousser le chiffre vers le bas, mais à croiser avec l'augmentation de la population sur le territoire picto-charentais depuis 90, et deux facteurs plus sociologiques, donc c'est peut-être des choses qu'on va approfondir par la suite, à la fois d'un taux d'occupation des logements qui diminue, qui on passe de 2,61 à 2,24. Donc là, on a pris l'inverse pour que la courbe ressemble à quelque chose. On passe donc de plus en plus, au sein des logements picto-charentais, de moins en moins de personnes habitent chaque logement. Donc ça, c'est un premier facteur aggravant d'une augmentation de la consommation énergétique. Deuxième facteur, la taille des logements augmente sur le territoire régional. On est passé... toujours de 90 à 2008, de 86 à 94 mètres carrés par logement. L'ensemble de ces facteurs corrélés conduisent à ce chiffre de plus 9%. Premier point. On reviendra si vous avez des questions.
Amandine, juste pour... voilà, on arrive bientôt à 10 minutes.
Oui, bah c'est deux graphes.
D'accord, très bien.
Voilà. Deuxième approche, on a parlé tout à l'heure de la production d'énergie renouvelable en Poitou-Charentes. Nous pouvons réaliser un suivi installation par installation de l'État qui nous permet de produire des états des lieux annuels, voire sur certaines filières trimestrielles, je pense notamment à des filières en explosion comme le photovoltaïque, ou semestrielles comme le développement des chaudières utilisant un bois automatique, une filière qu'on a vue tout à l'heure tout à fait majeure, ce qui nous permet de pouvoir produire des états des lieux assez fidèles de la situation régionale en matière de développement énergie renouvelable. Et donc le constat qui est fait, pour vous donner une couleur de la situation régionale, nous sommes une région dont la production d'énergie renouvelable est basée sur la biomasse. Il ne faut pas l'oublier. Vous voyez la courbe verte dans les tons verts plutôt clairs. Les grands bâtons, même s'ils sont en diminution depuis ces dernières années, c'est principalement du bois bûche. Vous voyez la répartition des différents pourcentages. Donc pour avoir une idée de cette production régionale ramenée au regard de la consommation énergétique, on voit qu'on est malgré tout, malgré un essor important, surtout ces dernières années, on reste à 8,2% de la consommation régionale d'énergie finale. Au niveau national, le chiffre est à peu près de 12,4%, principalement du fait de l'importance de l'énergie hydraulique. Au niveau national, en France, au niveau régional, l'énergie hydraulique est très très limitée. On le voit sur le graphe ici joint. Avec ce qui est important pour nous de toujours vous porter comme information, gardez en tête la notion d'usage énergétique, mais ça a été dit tout à l'heure en première intervention, les énergies renouvelables présentent différentes disparités selon les usages. Donc on parle d'usage thermique pour tout ce qui sert à se chauffer, usage électrique et les agrocarburants. Donc on a représenté la production régionale d'agrocarburants, étant donné que nous disposons aujourd'hui de deux sites, deux installations qui fabriquent du diester, du biodiesel en région. Donc on a figuré cette production. C'est ce qui est à l'origine des 12% d'agrocarburants en région Poitou-Charentes. Et on voit que suivant les usages, le rapport entre ce qui est nos besoins, donc ici vous avez la courbe bleue qui correspond aux besoins régionaux, de ces différents usages et en regard de ces besoins, ce qui est constitué de la production locale en matière d'énergie renouvelable, pour vous donner une idée. Dernier point, pour vous apporter un éclairage sur les enjeux de maîtrise et d'économie d'énergie qui ont été rapportés tout à l'heure, on a mis en parallèle non pas la consommation d'électricité, mais la croissance de la consommation d'électricité, donc ça c'est la courbe grise, ramenée à la production d'énergie renouvelable. Donc pour vous illustrer qu'en matière d'électricité, hein, donc là on est bien sur l'électricité, je ne sais pas si le graphe il a été mis, non. Là on a fait le focus hein, sur cette petite partie-là hein, qui correspond aux usages électriques. On voit qu'on est on court après un lièvre qui va très très vite. Hein, pour vous illustrer que malgré l'essor prépondérant des énergies renouvelables qui se mesure aussi en Poitou-Charentes en matière de photovoltaïque, on a connu des explosions des fois 5 en une année, c'est une filière en développement majeur. Malgré tout, on voit que cet essor peine ne serait-ce que d'atteindre 20% de la croissance de la consommation d'électricité. Voilà.
Merci beaucoup.
Conformément à la demande, j'arrête
parfait.
Là. Parfait. Je dispose d'autres données derrière,
non, mais
ça dépendra des questions.
C'est des éclairages très utiles pour qu'on comprenne bien le lien peut-être avec ce qui a précédé, hein, un éclairage régional donc avec des chiffres très précis. On peut être surpris effectivement par la part de la biomasse. Moi, j'ignorais complètement, en particulier du bois. Je ne savais pas que c'était une région si boisée que ça.
C'est pas forcément lié ouais. à la disponibilité du bois. Effectivement, on n'est pas une région boisée. On est un nain forestier, hein, c'est ce que disent souvent les professionnels du bois. Pour autant, en matière de production, on est une région qui utilise encore majoritairement le bois-bûche. On est une région rurale où l'utilisation de la ressource bois-bûche est encore très, très importante par rapport aux données nationales. Et puis, ça, c'est des politiques fortes de développement du bois en collectif, en industriel aussi, ça s'est pas mal développé.
Très bien, merci. Alors on va passer à un éclairage un peu différent, mais sans doute complémentaire, avec Laurence Reynaud, donc, qui est sociologue. Alors, question très générale, en tant que sociologue, qu'est-ce que vous apportent vos enquêtes de terrain auprès donc, des gens que vous pouvez être amené à rencontrer, des associations, des ONG, des politiques peut-être? Comment voyez-vous un peu l'évolution des grandes tendances énergétiques, alors, au niveau peut-être local, régional, national?
Oui, vous m'entendez? Ça marche?
Oui, ça marche.
Là, vous m'en demandez beaucoup, mais je vais vous exposer brièvement.
Question très large.
Ouais. En tout cas, je vais être beaucoup moins dans la précision, beaucoup moins précise, et en même temps revenir à un niveau effectivement beaucoup plus micro, puisque bon, ma démarche, moi, c'est de partir dans ma recherche de cas très locaux, de cas singuliers. Bon, alors, ça peut être, j'ai travaillé sur des exemples d'écoquartiers, des projets d'écoquartiers, des petites communautés qui émergent et qui se montent autour d'un projet énergétique et souvent autour des énergies renouvelables. Voilà, autour de conflits aussi liés à l'énergie. Ça peut être des conflits qui sont liés à des projets de lignes à très haute tension, par exemple, ou des conflits liés à l'expansion du grand éolien qui pose certains problèmes dans les territoires aussi. Voilà, à partir de là, donc à partir de cas très singuliers, mon objet est quand même de comprendre des questions globales. Donc, c'est une démarche un peu inverse. Et effectivement, d'essayer de comprendre les enjeux d'une transition énergétique, la façon dont les renouvelables peuvent se déployer dans notre système actuel, dans les grands réseaux. Et donc, des questions qui restent globales, ou la place du nucléaire, etc. Voilà, c'est un peu le regard, pour comparer avec la médecine, peut-être, du spécialiste et du généraliste. Alors, en allant au niveau le plus micro, on voit les enchevêtrements et du social, du politique, de l'environnement, du rapport à la nature, enchevêtrés et non plus aussi de façon isolée et distincte et donc précise, comme ils peuvent l'être à un niveau plus global. Mais je vois ces approches complémentaires et pas forcément concurrentes. Voilà, donc il y a une réelle force au niveau local, une capacité d'action. Je parlais des conflits. Il y a beaucoup de conflits qui sont menés au bout et qui amènent certains citoyens sous forme d'associations effectivement à contourner des projets de grandes entreprises, voire d'États, de nations, et à les délocaliser en fait, à les déplacer le plus souvent. Voilà, donc la question très générale que je voudrais poser, c'est, enfin, ou l'interrogation, je vais peut-être lancer juste des questions vu le peu de temps dont on dispose, c'est qu'effectivement, toutes ces données qu'on vient de voir tout à l'heure nous amènent à penser que la question se pose à un niveau très global, qu'elle nous impose une vision de surplomb. Puisqu'on parle de réchauffement climatique, on parle de baisse de la biodiversité ou de pollution liée aux radiations, aux accidents nucléaires ou aux effets de pollution radioactive. Des choses invisibles, impalpables et parfois qu'on ne peut pas percevoir localement. On ne peut pas tous se déplacer dans l'Arctique. C'est sûr qu'il y a des endroits où ça se voit, mais le réchauffement climatique n'est pas forcément quelque chose de très concret pour nous tous. Donc comment l'action peut s'engager face à des phénomènes qui nous font peut-être peur et sur lesquels on est sensibilisé, mais qui ne sont pas dans notre quotidien. C'est ça, donc, qui ne sont pas forcément dans des priorités d'une part et qui ne sont pas perceptibles. Alors on est obligé de passer par des instruments, des techniques, des experts pour avoir accès à cette information-là. Et c'est vrai, vous disiez, on est de plus en plus informés et on est de mieux en mieux informés. On est inquiet aussi, les comportements changent. Bon, il y a toutefois aussi des irréversibilités qui sont liées au fait qu'il y a aujourd'hui des déchets, il y a aujourd'hui des pollutions chimiques qui, même si on basculait aujourd'hui vers un système tout à fait écologique et de type développement durable, on aurait à traiter quand même ces problèmes-là qui sont installés. Ça, c'était pour la parenthèse. Mais donc, ces effets globaux, et ces questions globales qui nous sont posées nous amèneraient à penser qu'il faut agir aussi à un niveau global, c'est-à-dire avoir une position de surplomb pour penser ces problèmes et pour y répondre. De part aussi cette déconnexion géographique entre le lieu d'où émergent les problèmes, la centrale, l'usine, le laboratoire, et puis les lieux où ils peuvent se faire ressentir, comme dans l'Arctique, qui jusqu'à maintenant n'était peut-être pas le premier émetteur de CO2, jusqu'à maintenant, enfin, tant qu'ils ne vont pas peut-être produire extrêmement du pétrole, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc les problèmes ne se posent pas là où ils se... Enfin, le phénomène n'est pas visible là où il se cause, et comment l'action peut s'engager au niveau local dans ces conditions qu'on se sent peut-être impuissant. Donc il serait logique effectivement de garder cette vision de surplomb, d'aller vers des recherches de solutions technologiques aussi qui sont globales. Voilà, mais la question, donc une autre question que je lance aussi, c'est que on pourrait se demander justement si cette position de surplomb et cette distanciation entre la cause et l'effet n'est pas à l'origine des problèmes et de la crise, la nature de la crise écologique et de notre impuissance parfois à la saisir et notre incapacité à agir dessus. C'est un peu dans cet esprit que se développe, donc vous parliez des cas locaux, des éco-quartiers, même s'il y a des projets souvent qui émanent d'en haut, mais souvent, la plupart du temps, enfin je dirais non, dans tous les cas d'écoquartier, il y a une mobilisation au départ de citoyens, de riverains, riverains d'une friche, d'un quartier arabilité, qui se saisissent de cela pour déployer ce projet et proposer ce projet, se monter en association. Alors c'est plus ou moins, ça émerge plus ou moins de la base selon les pays, selon les cultures, selon le système politique. Mais il y a toujours cet engagement, effectivement, local des personnes dans le cas des écoquartiers. Alors dans le cas de petites communautés rurales qui développent des réseaux locaux d'énergie, c'est évidemment uniquement un projet local où des choses se font, effectivement. Mais bon, la question aussi qui se pose, c'est quel est l'impact et la capacité de ces exemples, finalement, c'est comme des petits laboratoires, à changer nos comportements. Donc, je ne sais pas où j'en suis pour le temps. Bientôt fini, c'est
oui,
ça
oui, bon, bon, alors je vais essayer. Conclure.
Voilà, alors je conclue sur le thème de l'écoquartier. Conclusion un petit peu à rallonge peut-être, mais bon, qui est un exemple de relocalisation, hein, qui est un projet qui se développe. Je prends juste comme exemple, hein, je ne fais pas la publicité de l'écoquartier, il y a des tas de problèmes avec, mais qui se développe autour d'un projet énergétique, hein, et qui vise, le projet c'est l'autosuffisance énergétique, ce qui ne veut pas dire l'autonomie, la mise à l'écart, mais essayer de produire en ville, ce qui est quand même un phénomène assez révolutionnaire, de produire sa propre énergie, c'est-à-dire que la ville n'est plus prédatrice, mais essaye de produire au moins autant d'énergie qu'elle ne va en consommer, même si tout ça passe par le réseau. Donc c'est un projet qui est construit autour de l'énergie, mais, pour aller très vite à la conclusion, qui se déploie en fait comme un projet économique, social, politique, institutionnel, qui engage donc tous ces niveaux-là en même temps, où le rapport à la nature change et les possibilités de traiter les eaux usées, par exemple, ou d'absorber les eaux de pluie ne sont plus traitées de la même façon que dans le reste de la ville, avec des mécanismes et des techniques naturelles. Et donc, il y a des possibilités nouvelles qui s'ouvrent, effectivement très micro, très locales, dans des domaines qui ne sont plus exclusivement de l'énergie, mais qui sont effectivement liés. Donc, tout ça pour dire que l'énergie, c'est une question sociale, je ne dirais pas avant tout, enfin, évidemment, en tant que sociologue, je veux dire que c'est une question sociale avant tout, mais c'est vraiment un choix de société, choisir une énergie. Et il faut se ressaisir de cette question qui n'est pas qu'une question, bien sûr, on le voit, qui n'est pas qu'une question technique, et scientifique. Et surtout, ce qu'on voit dans les écoquartiers, peut-être, c'est que l'énergie renouvelable, qui est donc le départ, finalement, de ce projet, c'est pas une solution technique, justement. C'est pas une énergie de substitution aux fossiles. C'est le début d'une dynamique vers une autre organisation sociale et économique. Et il y a dans les écoquartiers aussi une relocalisation de l'économie, parce que pour économiser l'énergie, c'est tout le système que vous évoquiez tout à l'heure, il faut aussi réduire les distances. Voilà. Et puis une dernière chose, je rebondis donc ce qui a été dit tout à l'heure. Ce que nous enseignent enfin les écoquartiers, c'est que finalement, on agit plus par désir que par peur. C'est-à-dire, on sait beaucoup de choses. Effectivement, on sait qu'il y a des menaces. On les croit peut-être, mais on les vit pas. Et ce qui va être le moteur des écoquartiers, c'est aussi le désir de vivre. Parce qu'il y a une vie sociale très développée. Bon, après, c'est peut-être un peu une vie qui peut apparaître communautaire. Mais ce qu'il y a, en tout cas, c'est que dans les écoquartiers, si au départ, il y a les personnes qui y vivent sont des militants ou des gens convaincus, il y a une forte demande pour entrer dans ces quartiers-là. Et parce que la qualité de vie y est bonne, parce qu'on a envie d'aller dans ces quartiers. Donc le désir est peut-être plus un moteur de changement que la crainte ou la peur. Et donc ces petits exemples sont peut-être des moyens, et il faut qu'ils soient très différents et multiples, de susciter de nouveaux désirs. Voilà.
Merci, je pense que c'est un point qui fera discussion tout à l'heure. On va continuer peut-être sur la question de la sobriété énergétique, parce que le politique a été peu évoqué jusqu'à maintenant, mais le politique a quand même agi. Il y a des réglementations thermiques qui existent, la réglementation thermique 2005, il y a une nouvelle réglementation 2012 qui va être obligatoire à compter de 2013 pour toutes les constructions neuves. Donc il y a des choses qui se font quand même. Alors, cette réglementation thermique, elle permet justement d'économiser l'énergie, par exemple en isolant votre maison de manière à consommer beaucoup moins d'énergie. Avec un poêle à bois, vous pouvez chauffer une maison de 140 m² si elle est bien isolée. On revient à la biomasse. Alors pour ça, évidemment, il faut qu'il y ait, des services municipaux quand il s'agit de bâtiments collectifs. D'une part pour mettre en œuvre les prescriptions de cette réglementation, les contrôler, vérifier ensuite que ces constructions, dites aussi HQE, alors il y a plusieurs labels, haute qualité environnementale, BBC, bâtiment à basse consommation. Alors pour nous éclairer sur ce point qui est crucial, parce que c'est quand même au niveau local que les choses peuvent se faire aussi un petit peu, Marie-Claude Serré, donc de la ville de Poitiers, va nous expliquer un peu ce qu'elle fait dans cette cellule d'activité fluide énergie. Et le micro marche en principe. Oui.
Donc on a fait partie avec M. Perrier, que je vous présente en fait les missions du centre d'activité fluide énergie. Et au fur et à mesure donc, des questions, on expliquera un petit peu quelles sont nos actions de façon plus précise en fait sur un périmètre que vous côtoyez peut-être au quotidien. Donc le centre d'activité fluide énergie, il fait partie d'un service qui s'appelle Maintenance Patrimoine Bâti Énergie. Ce service, il a toute une histoire, puisque jusqu'en 2005, il ne s'occupait de l'énergie que pour le patrimoine bâti, hors équipement sportif. Donc petit à petit, avec l'évolution des textes, et notamment là, des textes liés à l'ouverture du marché de l'énergie, on a souhaité centraliser cette gestion de l'énergie pour arriver au 1er janvier 2010, où on a centralisé toute la facturation de l'énergie de la ville et de Grand Poitiers aujourd'hui. Donc toutes ces factures arrivent aujourd'hui dans notre service et donc nous avons une vision enfin transversale de l'ensemble des activités qui consomment de l'énergie. Donc on est bien sur le périmètre des collectivités consommatrices d'énergie et pas de la ville qui est incitatrice en termes de développement urbain. Donc à partir de cette première loi qui était liée à l'ouverture de l'énergie, qui en fait ne s'est pas faite au moment où elle avait été souhaitée, on a commencé à vouloir évaluer en fait nos consommations d'énergie, parce que ce dont on s'est très vite rendu compte, c'est qu'on était inondé de factures, et de factures papier qui représentent donc des dizaines de centimètres, vous imaginez. Donc il a fallu d'abord qu'on commence à rechercher un outil informatique de gestion fluide d'énergie. Ça va vous paraître très basique, hein, mais voilà, il a fallu d'abord compter, et on compte encore aujourd'hui, et on n'est pas des fois toujours très aidé non plus pour compter en fait. Voilà, ça c'est aussi une difficulté qu'on a avec les fournisseurs d'énergie. Ils changent les formats de fichiers, donc je vous passe les détails. Donc on s'est doté enfin de cet outil de gestion fluide d'énergie. Cet outil nous sert à faire du suivi au quotidien des consommations d'énergie qui arrivent donc en flux tendu, on va dire, et nous permet aussi d'analyser du coup aussi nos consommations d'énergie. Je vais prendre le cas du patrimoine bâti. On va très vite évaluer, un petit peu comme on le fait dans le diagnostic de performance énergétique, l'étiquette énergie d'un bâtiment. Donc celui-là, il va s'exprimer un petit peu, comme l'a dit madame, en kilowattheure, normalement d'énergie primaire, lui, par mètre carré. Donc alors là, je parle d'énergie primaire et plus d'énergie finale, comme la dame. C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite différence, c'est que pour la plupart des énergies fossiles, pour un kilowattheure effectivement facturé, ça représente bien un kilowattheure d'énergie primaire. Il y a une seule nuance, c'est pour l'électricité. Ou un kilowattheure d'énergie finale, en fait, il aura fallu 2,58 kilowattheures d'énergie primaire pour produire ce fameux kilowattheure d'énergie finale. Donc ce facteur de conversion, en fait, il aura une grande importance maintenant avec toutes les nouvelles réglementations, puisque, on le verra peut-être au fur et à mesure du débat, avec la nouvelle réglementation, en fait, on diminue énormément les besoins, on va dire, liés au chauffage, par exemple, des maisons. Ce qui devient un facteur clé dans ces consommations d'énergie, finalement, c'est la production d'eau chaude sanitaire. Et nous avons un certain, on va dire, une certaine expérience en France qui fait que la production souvent d'énergie sanitaire dans les maisons s'est fait beaucoup par des chauffe-eau électriques. Et donc maintenant, avec les nouvelles réglementations, ces chauffe-eau électriques, eh bien, ils vont tendre à disparaître parce que, à cause de ce fameux facteur de 2,58 dont je vous parlais, pour pouvoir atteindre ces niveaux de performance qui sont aujourd'hui prescrits par la réglementation. Donc nous faisons ce suivi pour les bâtiments et nous évaluons constamment en fait les investissements qui sont réalisés par différents acteurs dans la collectivité. Donc on a le service bâtiment qui est un service constructeur, donc non seulement il construit des nouveaux équipements mais il rénove aussi des équipements. Donc on évalue ces actions, ouais, on évalue aussi des actions d'éclairage public, autour de la production d'eau potable, enfin voilà, on a un grand chantier devant nous. On n'évalue pas toujours très bien, on a encore beaucoup de choses à faire, mais enfin ça fait partie en tout cas de, tout ce, de toutes nos actions qui nous sont dévolues en fait.
Voilà. D'accord, ben, écoutez, je crois qu'on a, on a une description assez, assez précise. Alors la parole est à, est à vous. Oui, effectivement. Merci, surtout qu'il fait, il fait assez chaud donc, et assez soif. Alors qui veut la parole? Alors, on a un citoyen qui fait partie d'un groupe, un groupe citoyen qui a particulièrement travaillé sur, le, sur, le, sur la question. Donc, bon, je pense que c'est l'occasion de lui passer la parole.
Bonsoir, Julien. Voilà, on aurait dû travailler un petit groupe et constituer un panel. On n'a pas eu le temps, mais on a participé aux différentes réunions qu'il y a eu à Madès et à l'Hôtel de Ville. Et on a retenu deux, trois choses, surtout qu'on n'est pas des initiés, nous ne sommes pas des scientifiques, on a une culture écologique pour la plupart très faible. Et on a retenu une seule chose, c'est la formation. Former les gosses, former les enfants et nous informer, nous. Parce qu'on nous dit, maintenant, on a les moyens d'être informés, mais j'ai l'impression que ça soit au point de vue local ou au point de vue global, on n'est pas si bien informé que ça. Alors, merci à tous les intervenants ce soir, dont Monsieur Victor, pour votre implication et vos explications. Mais je pense quand même que ce qu'on vient de dire ce soir, il y a très très peu de Poitevins qui le savent. Voilà. Merci.
Merci. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir succinctement ou enfin. Alors, la question de la formation, je prolonge un petit peu. Peut-être la question de la formation et aussi la question des professionnels. Je crois que c'est dans un autre débat, on faisait quelqu'un posait la question des artisans. Alors. Par exemple, si on veut isoler correctement les bâtiments en rénovation ou en construction neuve, est-ce qu'actuellement on est, prenons le cas de la région Poitou-Charentes, est-ce que les gens sont formés pour faire les choses correctement, éviter les ponts thermiques, etc., etc.
Là-dessus, si vous souhaitez intervenir, Amandine, par rapport à votre question, vous posez la question de la formation, de l'information, de l'éducation également, qui sont trois choses différentes.
C'est trois choses différentes.
Par rapport à l'éducation,
je prolonge un peu.
Pour le milieu scolaire, il y a un certain nombre de choses qui existent, mais portées par des associations. Les programmes scolaires commencent à évoluer. Moi, d'après ce que je peux voir, je crois que les enfants commencent à être informés sur les enjeux climatiques, sur la finitude des ressources énergétiques. Il y a un certain nombre de messages qui commencent à passer. C'est peut-être de l'espoir, parce que nous, toutes ces informations-là, on ne les a pas eues quand on est passé à l'école. Pour ce qui est de l'information citoyenne, c'est vrai qu'il existe, nous, c'est vrai que malheureusement, à la REC, on travaille plutôt pour les porteurs de politiques publiques, pour les décideurs locaux. Toutes les infos sont disponibles sur notre site, mais c'est vrai qu'il existe d'autres relais. Je pense à des associations locales comme le Graines Poitou-Charentes ou l'IFRE qui peuvent informer, qui réalisent des sessions de formation et de sensibilisation sur ces sujets-là, en plus des espaces info-énergie. Sur la question énergétique pure, il faut voir que sur votre territoire, il existe des structures dédiées, financées par les collectivités et l'ADEME, qui sont chargées de répondre à toutes vos questions de particuliers sur les meilleurs systèmes pour isoler ou autre. Troisième point, on voit aussi que dans le réseau de prescripteurs locaux, principalement des artisans, c'est des réflexions qu'on a souvent avec nos partenaires de l'ADEME, les artisans sont de mieux en mieux informés et formés aux différentes techniques, parce qu'on a le signal, on voit qu'au niveau des espaces info-énergie, il y a de moins en moins de personnes qui les appellent. Alors on se dit, serait-il possible que tout le monde soit parfaitement informé sur les meilleures mesures d'économie d'énergie dans son logement ? Peut-être pas. Une des raisons, c'est peut-être parce que des personnes commencent à trouver de l'information assez facilement en ligne. Et de deux, parce que leur réseau de prescripteurs classiques commence à leur apporter une information importante aussi. Donc ça, c'est un... Bon, j'ai pas de chiffres derrière. Hein, c'est ma petite contribution par rapport à votre question. Par rapport à l'enjeu de la formation des artisans, on a fait un travail de projection à horizon 2020. Si la région Poitou-Charentes respectait l'objectif énoncé par le Grenelle, de réduction de 38% des consommations énergétiques dans le secteur du bâtiment. Pour donner une idée, en termes de mise en chantier, on a essayé de poser des chiffres concrets locaux et assez directement facile à appréhender par les élus sur l'enjeu de ce fameux objectif qui a été énoncé dans le Grenelle. On réduit de 38% les consommations énergétiques dans le logement. On a vu qu'il fallait passer, en termes de mise en chantier, d'un rythme annuel de 2-3 000 mises en chantier, à peu près, on est à un rythme qui est, je crois, de 37 600 mises en chantier par an. Pour atteindre, donc ça vous donne une
mise
idée.
Mise en chantier de maisons individuelles ou de...
Voilà, de maisons, de chantiers de rénovation pour atteindre cet objectif. Donc, pour vous donner une idée de l'enjeu de l'atteinte de cet objectif, alors à coût de l'énergie constant, etc., comportement idem constant, mais on a mis ces hypothèses, donc, ce qui montre l'impact en termes de formation d'artisans, en gros, les professionnels. On a monté un groupe de travail en local, à chaque fois tous nos chiffres et tous nos travaux, c'est avec des partenaires locaux qui valident et puis qui alimentent, hein. C'est pas nous tout seuls parce qu'on est vraiment une petite équipe, pour donner une idée de l'impact. Et puis effectivement, les professionnels nous ont dit, mais il y a un enjeu de formation très fort et un gap à franchir qui est de l'ordre du volontarisme certain, on va dire.
Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle pour donner le micro, sinon je le... D'accord. Donc le...
Après, vous avez peut-être d'autres...
Ah, par contre, il n'y a qu'un micro.
Pour rebondir sur ce que vous avez dit sur les... sur la formation, l'éducation et l'information... à propos de l'éducation dans le Poitou-Charentes, il y a des... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la STEP et de la main à la pâte, qui sont des activités qui sont mises en place depuis quelques années maintenant pour faire la formation, un début d'information sur les sciences à partir de la maternelle et du primaire, principalement sur les énergies renouvelables et les informations sur les systèmes énergétiques en général. Donc il y a des choses qui sont mises en place. Malheureusement, au regard par exemple des programmes qu'il y a au collège et au lycée, il y a toujours un désamour des sciences qui font que les personnes ne sont plus intéressées. Et même si les programmes ont commencé à évoluer depuis l'année dernière, plus de changement des programmes, il n'y a pas assez de cas concrets, principalement les programmes de lycée, sur les systèmes énergétiques. Et donc tout ce qu'on voit ici sur les énergies en général. Pour parler de la formation des professionnels, par exemple, j'ai aussi un constat assez alarmant qui est lié à ce qu'on pourrait mettre sous l'égide du greenwashing. Je pense que vous avez déjà entendu parler. C'est-à-dire utiliser la complexité de toute cette sphère des énergies pour pouvoir en fait en faire quelque chose de profitable, pour pouvoir gagner de l'argent. Je pense principalement à la multiplication, je pense que vous l'avez remarqué, des petites PME qui font des installations de systèmes énergétiques chez vous, pour de pompes à chaleur, par exemple, qui sont pour beaucoup issus d'anciens... des constructeurs, principalement des gens qui travaillent dans l'habitat, et qui vont pas avoir forcément une formation scientifique, qui vont plutôt réfléchir avec un aspect commercial et qui vont faire un montage qui va pas durer très longtemps et qui va non seulement pas permettre une meilleure efficience énergétique, mais en plus vont être énergivores. C'est le cas, c'est un problème. Je pense aussi, par exemple, à la non-utilisation des briques monomures. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler aussi. C'est une brique dans laquelle on va mettre des lames d'air et qui vont pouvoir éviter d'utiliser de la laine de verre derrière du parpaing. Et il n'y a aucune formation, ou très peu de formations qui sont faites dans le milieu professionnel et dans le milieu du bâtiment, alors que c'est une solution pour éviter de mettre de la laine de verre.
Merci. Je pense qu'on va peut-être répondre déjà à ces points-là et vous pourrez reprendre éventuellement la parole. Alors, je sais pas, Marie Cosséré, peut-être vous pouvez nous donner un éclairage là-dessus. Sur la question de la certification ou de la compétence des professionnels qui interviennent sur des chantiers, est-ce que vous avez là des idées un peu claires?
En, termes de collectivité, c'est vrai qu'on n'est pas confronté à ce qu'évoque monsieur sur les petits artisans, puisque nous, on fait appel à des marchés publics. Et très souvent, effectivement, ce sont des professionnels avec des capacités techniques peut-être un peu plus fortes. Il reste qu'on peut aussi, malgré tout, être confronté à des difficultés. Ça fait partie, effectivement, de la vie d'un chantier, malheureusement. Voilà. Après, nous, on est là aussi, effectivement, quand il y a des malfaçons, pour évaluer. Et ce n'est pas facile, parce qu'il faut contrôler les chantiers et il faut évaluer derrière. On a des cas assez précis hein, de choses qui sont sorties de terre et qui, effectivement, dans la première n'ont pas respecté ce qu'on souhaitait, nos engagements. Donc on s'appuie aussi quelquefois sur des assistants en maîtrise d'ouvrage pour nous aider à évaluer, en fait, lorsqu'on a un objectif qui est, on va dire, assez ambitieux. On a des assistants en maîtrise d'ouvrage qui peuvent nous aider et nous alerter. Donc à nous aussi de rectifier, de trouver des exploitants d'installations thermiques qui entament aussi la boucle vertueuse, à qui, en termes de collectivité, on peut donner quelquefois ce qu'on appelle des marchés intéressements. C'est-à-dire qu'on fixe un niveau de consommation d'énergie sur un bâtiment. Et si cette atteinte n'est pas... Alors tout ça ramené à des conditions climatiques identiques, bien sûr. Hein. Donc si cette atteinte d'objectif n'est pas atteinte, en fait, l'exploitant est pénalisé de la différence entre ce qui s'est véritablement réalisé et l'objectif. Et dans le cas où c'est bénéficiaire, on va dire que le bénéfice est partagé entre la collectivité et l'exploitant. Donc il a tout intérêt, effectivement, à tenir, par exemple, les températures contractuelles qu'on lui a données. Donc on va revenir, comme vous le disiez, sur la sobriété énergétique. Le 19 degrés dont on entend parler depuis maintenant quelques dizaines d'années, on est toujours dessus, nous. Voilà, donc on rappelle et on martèle que dans les établissements publics, on devrait être sur 19 degrés, même si ce soir, on n'y est pas. Hein, on est d'accord. C'est la chaleur humaine, voilà, on dégage. C'est d'ailleurs... quand vous parliez à nouveau de nouvelles certifications, ils comptent beaucoup sur les apports en fait qui sont gratuits, effectivement. Voilà. Je voulais parler en termes de formation, vous parliez du jeune public, je parle du bâtiment. Je vais parler d'une expérience que je trouve sur la collective, enfin sur le territoire en tout cas de la ville de Grand Poitiers, qui est assez intéressante, qui est le carapate. Hein. Donc dans quelques communes, les enfants en fait vont à l'école à pied avec un système en fait de bus à pied. Et donc ils évitent de prendre la voiture. Je crois que là aussi, tous les jours, certains enfants choisissent de marcher avec certains parents. Donc je crois qu'ils voient à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est un des exemples, en tout cas, qui, pour eux, est tout à fait concret.
Est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui, monsieur au fond. Oui, pardon, je ne vous ai pas vu, mais ça sera la prochaine fois.
Oui, vous nous parlez surtout des chantiers qui sont entrepris par les collectivités, les bailleurs sociaux, je pense, qui doivent représenter une part très importante de ce marché de la réhabilitation thermique des bâtiments. Moi, ce que j'ai tendance à constater, c'est qu'effectivement, avec la puissance qu'ont les collectivités en termes de bureaux d'études et services en tout genre, de contrôler la qualité des installations qui sont faites. Par contre, en ce qui concerne les chantiers des particuliers, très souvent, il suffit de lire la presse, on frise plutôt le désastre, c'est-à-dire avec des artisans souvent peu compétents, et des chantiers qui se terminent assez mal. C'est une espèce de conclusion. Ça reste aujourd'hui un marché plus à la portée des collectivités que des particuliers. Et surtout que pour les particuliers, c'est aussi un peu hors portée financièrement.
Alors, je ne sais pas s'il y a une réaction. Là, l'aspect financier en particulier, alors peut-être pour les particuliers. Marie-Claude Serré.
La collectivité, elle est confrontée effectivement à une autre échelle, mais elle est confrontée au même choix. Quand effectivement elle fait le choix d'une entreprise, elle peut être confrontée à des malfaçons. On est tous d'accord, je pense, pour ça. Et on est tous confrontés aux problèmes de restrictions budgétaires. Les choix sont très difficiles. Hein. Je pense que vous voyez un petit peu quel est le niveau, nous aussi, hein, que l'on devrait atteindre. Madame l'a rappelé, hein. Moins 38% en 2020. Je vous avoue que l'objectif, la barre, elle est très très haute pour nous et qu'on ne sait pas très bien comment on va l'atteindre, quoi. On avance aujourd'hui un peu pas à pas. On a ce qu'on appelle un programme pluriannuel d'investissement où on a certaines échéances qui sont connues, mais c'est très difficile aussi à atteindre ces objectifs-là. Hein.
Vous posez la question des moyens, on a l'impression que vous manquez de moyens. Est-ce que je me trompe ou
C'est aujourd'hui une partie du nerf de la guerre, c'est pas que ça, parce qu'il faut aussi avoir des moyens humains, effectivement, pour reconstruire et rénover, mais l'aspect financier est aussi une très forte contrainte pour nous, quoi. Puisque, quand vous le disiez, effectivement, l'idéal, c'est quand même d'abord de réduire les besoins et de commencer par isoler. Nous, on est souvent sur un euro efficient et quelquefois, quand on est contraint, on va d'abord regarder le système de production parce qu'on sait que pour un euro investi, on aura un maximum, entre guillemets, d'économie d'énergie à la clé. Donc, on fait des choix qui sont quelquefois très pragmatiques, en fait.
D'accord. Amandine Loeb, vous voulez...
Oui, pour en revenir à l'éclairage de monsieur... tout à fait. Enfin, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises au niveau national de prêt à taux zéro, mais le prêt à taux zéro, ça ne s'adresse pas non plus à tout le monde. De crédit d'impôt, il y a un certain nombre de choses, mais c'est vrai que la tendance, ce n'est pas à l'augmentation. Et quand on a vu les derniers échos, c'est pas de chance, c'est la rénovation énergétique qui en a pris un coup. Malgré tout, on peut voir que certaines... je pense à une étude Credoc qui avait démontré que très souvent, les gens n'entreprennent pas des travaux d'économie d'énergie pour les seules économies d'énergie. Souvent, en plus, ce qui vient plomber, entre guillemets, le budget, c'est que très souvent, quand on met en place des travaux de rénovation dans son logement, on ne pense pas tout de suite économie d'énergie, donc il y a des dépenses qui surajoutent. On pense à confort acoustique, donc on va mettre du double vitrage, qui en termes d'économie d'énergie n'est peut-être pas la première porte d'entrée à impliquer. Par l'euro investi, on dit qu'il vaut mieux mettre en place une isolation au niveau des combles, où là on sait que l'euro investi sera le plus efficace. Donc c'est vrai qu'il y a toute une gradation aussi dans la dépense à intégrer, mais il est vrai qu'aujourd'hui nos pratiques de particuliers, c'est quand on va entreprendre une rénovation du logement, souvent c'est un chantier très coûteux parce qu'on n'est pas centré sur l'économie d'énergie. Mais souvent, on entreprend des travaux d'embellissement, d'agrandissement, qui font que le budget au global, même si on a des chiffres dans les livres qui annoncent des coûts de rénovation qui peuvent paraître raisonnables, tout du moins pour une certaine partie de la population, souvent, y a des surcoûts parce que dans les faits, on fait des travaux pour d'autres raisons. Une étude de perception avait montré que seuls 6% des personnes qui entreprennent des travaux le font pour des raisons d'économie d'énergie. Donc on a peut-être aussi une marge, c'est-à-dire qu'à chaque fois, pour d'autres raisons, c'était j'agrandis, j'embellis, je cherche un confort acoustique, il y a le bruit. Donc dans ces cas-là, le choix au global de rénovation va englober d'autres choses et du coup d'autres coûts. Mais ça, c'est pour vous apporter un éclairage, pour indiquer que on avait essayé de ramener l'euro pour produire ou éviter un mégawattheure. D'énergie par filière. Donc on avait à l'origine réalisé le coût pour la production d'un mégawattheure en énergie renouvelable. Donc on voit les filières photovoltaïques. Et on a essayé de chiffrer aussi le coût d'un évitement de mégawattheure par des mesures d'isolation. Et on se rend compte que malgré tout, là on voit ici la courbe d'isolation des combles, et on a mis en valeur seuil les prix actuels d'usage énergétique. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de démarches qui commencent quand elles sont prises isolément, encore une fois, et donc c'était pondéré par ce que je disais tout à l'heure, on peut atteindre, quand on met en regard de choix de production d'énergie renouvelable, on est sur des solutions qui peuvent présenter des intérêts économiques intéressants.
Et pour revenir juste un point là, pour revenir à l'information, est-ce que justement les gens manquent pas d'informations sur ces points? Vous dites 6% des gens font de la rénovation pour des raisons d'embellissement. C'est bien ça, oui.
Disons que le choix de l'acte de rénovation est pour seulement 6% des cas, principalement motivé par des raisons d'économie d'énergie. Voilà. C'est-à-dire qu'on y vient, mais ce n'est pas la raison première.
Est-ce que les mairies ne pourraient pas faire de l'information davantage pour dire aux gens, si vous avez des travaux à faire, profitez-en pour faire des économies d'énergie?
Tout à fait. Là, on en revient au choix. On est sur un débat qui porte sur des enjeux locaux. Nous, on apporte de la donnée, on apporte de l'information, mais on voit qu'indéniablement... de nombreuses initiatives se mettent en place et l'échelon local est un échelon tout à fait pertinent justement pour ce levier de mobilisation des personnes, de sensibilisation. Encore faut-il être exemplaire. C'est pour ça qu'aussi les collectivités, souvent, c'est difficile de mobiliser la population, de sensibiliser, si de son côté, on n'est pas exemplaire. Donc souvent, les collectivités choisissent un peu d'avancer d'abord à un échelon local. C'était l'exemple énoncé de madame. Mais indéniablement, dans l'ensemble des programmes, dans l'organisation des collectivités autour des plans climat, il y a une réglementation qui commence à se mettre en place. Pour qu'un certain nombre de collectivités au-delà de 50 000 habitants s'organisent et mettent en place des plans de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, et c'est à échéance 2012, on voit poindre des initiatives de mobilisation de la population petit à petit.
D'accord.
Le chemin est encore long.
On a plusieurs questions. Alors, Yves Sénatiempo, pour commencer, il y en a d'autres ensuite.
Oui, alors moi j'avais plein de choses à dire, alors je vais quand même me limiter. Je vais commencer par ce dernier tableau. Une des choses importantes, c'est qu'on aura en fin de semaine des gens qui auront ce discours-là, qui interviendront au niveau de certaines associations qui prônent effectivement de commencer par des travaux d'isolation et d'économie d'énergie par ce biais-là, plutôt que d'aller chercher à trouver de meilleures sources externes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point concernant cette présentation, est-ce que vous pouvez nous dire si ce sont des données qui sont vraiment actualisées? Parce que là, visiblement, on a des fluctuations très rapides sur les énergies renouvelables, notamment sur le photovoltaïque.
Tout à fait.
Dont le coût diminue très fortement.
Ce sont des données que nous avons produites pour l'édition de notre bilan annuel 2010 des énergies renouvelables. Donc, on l'a sorti tout début 2011. Mais il est vrai que
mais
nous actualisons nos bilans.
Ça a déjà diminué largement depuis le début de l'année.
On va actualiser le prochain dans les semaines.
Donc, il faudrait
qui viennent.
Que ça soit quasiment en ligne en permanence pour que ça soit vraiment actualisé. Donc ça, c'est un point.
Ça s'est donné donc début 2011.
Le deuxième point, ça concernait le problème des artisans. C'est vrai que, et là je reprends ce que disait Jean-Christophe Victor tout à l'heure, on ne voit dans les journaux que les mauvaises nouvelles. Et donc ça ne veut pas dire que tous les artisans sont nuls dans le domaine. Et il serait intéressant justement qu'on ait des points d'information plutôt positifs. Alors moi je propose éventuellement que ceux qui ont des exemples positifs le répercutent sur le site de l'Espace Mendès France. Et que ça soit une source, plutôt qu'on ait toujours les mauvais exemples, même si parce que les mauvais exemples, on va les avoir assez facilement. Donc ça, c'est une suggestion. Et le dernier point, c'était une question pour Madame Reynaud. Est-ce que vous auriez éventuellement, assez rapidement, un exemple d'écoquartier que vous mettriez en exergue et qui vous paraît très pertinent, hors du commun, aujourd'hui?
Parmi ceux que j'ai étudiés, enfin, parmi les plus connus, je crois que je mettrais le cas de Vauban, qui est à Fribourg, en Allemagne. D'abord, sur le plan de l'émergence du projet qui est émergé vraiment par la base. Et puis, en fait, surtout parce qu'il prend sens, ce projet, et il est dans une dynamique de la ville, du pays, et de la ville de Fribourg, surtout, qu'il y a une économie qui s'est développée autour des renouvelables. Alors avec tout ce qu'on peut effectivement mettre en doute sur ces nouvelles technologies, mais quand même il y a une dynamique économique, une dynamique sociale autour de ces énergies alternatives qui sont le moteur de cet écoquartier. Donc la frontière est plus poreuse entre l'écoquartier et la ville. Il y a une compréhension mutuelle et une dynamique mutuelle. Le cas peut-être à l'autre extrême, ce serait un écoquartier dans la banlieue sud de Londres qui s'appelle Bedsead, où là, cet écoquartier, bon, ça évolue, mais donc c'est deux exemples assez anciens, c'est pour ça que je les prends une dizaine d'années, il y a un petit peu de recul. Et là, cet écoquartier s'est développé de façon assez isolée dans la ville, une ville dont la commune avait une volonté de développer cette zone de façon écologique, mais il n'y avait pas vraiment de dynamique, un quartier plus pauvre, et cet écoquartier apparaît finalement comme un îlot et peut susciter plus de rejet que de désir, je disais tout à l'heure, ou d'attirance, même si beaucoup de gens veulent y rentrer. C'est pas forcément des gens, des riverains, parce que les loyers sont plus élevés, l'accès à la propriété est plus cher, et finalement ils apparaissent comme des marginaux, et comme il n'y a pas forcément l'effet l'effet moteur localement au moins. Mais en tout cas, et cet exemple est intéressant parce que Belzed est visité par un nombre incroyable d'étrangers qui viennent prendre des informations et essayer de copier ce quartier en l'améliorant à travers le monde. Donc le contraste entre l'effet local et l'effet de reproduction géographiquement de façon très lointaine est intéressant.
Merci. Alors, il y a plusieurs questions, mais je m'excuse. Alors, il y a monsieur là-bas, madame, et puis je crois qu'il y avait une question pour monsieur Victor. Alors, on peut commencer peut-être par la question à monsieur Victor.
Oui, j'aurais voulu soulever le problème, là, notamment après-guerre, dans le contexte de la guerre froide, savoir pour quelles raisons on avait autorisé l'Allemagne, divisée à l'époque, à acquérir le nucléaire civil. Alors qu'en fait, c'était un pays, soi-disant, qui devait être démilitarisé et ne pas avoir de puissance, quoi. Donc si éventuellement, vous pourriez soulever ce problème, quoi. Monsieur Victor.
Qui c'est qui ? Ah oui. Bah écoutez, la réponse est contenue dans votre question. Acquérir le nucléaire civil ne veut pas dire qu'on a l'atome militaire pour autant. C'est un niveau d'enrichissement de l'uranium et ce n'était pas du tout le cas pour la République fédérale allemande. Ensuite, elle était membre et signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Elle était membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle était donc sous contrôle des inspecteurs de l'AIEA. Donc ça lui permettait de produire de l'énergie, mais pas de se doter de nucléaire militaire. Troisièmement, je vous rappelle que il y avait les puissances occupantes. Hein. Les puissances occupantes, elles sont parties en 1990. Troisième élément, c'est certainement pas un pays comme la France qui aurait accepté que l'Allemagne acquiert du nucléaire militaire. Donc oui, on lui a laissé développer des sources d'énergie nucléaire civile, mais pas militaire. Il n'y avait pas de contradiction vis-à-vis des traités. Puis vous savez, depuis quasiment la formation de la RDA, le comportement démocratique de l'Allemagne n'a jamais été pris en défaut, hein. Strictement jamais. En plus, c'est un État fédéral. Hein. Alors nous sommes un vieil État jacobin. Et de ce point de vue-là, vous avez aussi des contre-pouvoirs. Hein. Entre les États fédérés allemands et l'État fédéral, vous avez des parlements locaux, enfin fédéraux. Hein. C'est une organisation tout à fait différente. Donc il n'y avait pas de risque.
Et autrement, j'aurais une autre question à vous poser sur l'éventuel avec l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez de l'homogénéisation de la politique, notamment dans le domaine du solaire, à partir de cette constatation que j'ai faite, qu'assez paradoxalement, en l'occurrence en Allemagne, il y a relativement peu de soleil et il y a beaucoup de capteurs solaires pour chez les particuliers. Et à contrario, pour ce que j'ai pu en voir, en Espagne, où il y a beaucoup de soleil, il y aura relativement peu de capteurs solaires. Et en France, dans le domaine des particuliers, c'est relativement, c'est peu développé, quoi. C'est plutôt pour les collectivités territoriales, l'État. Bon, est-ce que vous pensez qu'à terme, il pourrait y avoir une espèce d'homogénéisation de ça, européenne, en fait?
Vous soulevez là le problème suivant. Il n'y a pas de politique communautaire de l'énergie. Chaque État, dans les 27, a sa propre politique énergétique. Alors, est-ce un avantage, est-ce un inconvénient? Moi, je pense que c'est un inconvénient. D'une part, parce que ça permettrait justement de tendre vers des économies, mais aussi des économies dans le coût des importations. On serait en position de négociation bien meilleure pour l'achat du gaz russe si on négociait à 27. Quand vous pensez, par exemple, qu'un pays comme la Slovaquie, qui est membre de l'Union, est dépendante à 100% de la Russie pour l'importation de son gaz,
Elle est donc en situation de fragilité, non seulement de dépendance, mais de fragilité. Donc on ne s'oriente pas du tout vers, pour le moment en tout cas, vers une communautarisation de l'énergie. Le réseau Nord Stream qui ouvre cette semaine, hein, entre la Russie, la Baltique et l'Allemagne, c'est un accord germano-russe, russo-allemand. Et Gerhard Schröder a joué un rôle très important. Mais ça avantage l'Allemagne, ça n'avantage pas la totalité de l'Union. Donc oui, c'est un très bon exemple que vous prenez. Donc non, pour le moment, on ne va pas vers cette posture qui serait, me semble-t-il, préférable.
Et pour terminer, juste succinctement, par rapport à
peut-être,
ça...
Peut-être que...
Non.
Excusez-moi, mais on va passer la parole à d'autres personnes. Il y a madame et monsieur qui lèvent la main depuis un bout de temps. Voilà, madame ici. Madame ici.
Oui, je voulais revenir sur le débat précédent. J'ai lu récemment un compte-rendu des résultats d'un écoquartier à Grenoble, dont j'ai oublié immédiatement le nom, mais que vous devez connaître, Madame Reynaud, où il disait qu'il y avait des contre-performances considérables par rapport à ce qui avait été prévu dans le monde, oui, en effet. Et en particulier, ils invoquaient l'incompétence des personnes qui étaient intervenues pour les installations énergétique, et d'autre part aussi la mauvaise utilisation par les usagers. Parce que vous avez parlé des écoquartiers comme des projets militants, mais très souvent aussi ce sont des projets publics dans lesquels on installe par exemple des logements sociaux et où sont logées des personnes pour lesquelles l'énergie n'est pas une préoccupation immédiate parce qu'ils ont trop d'autres problèmes à régler dans leur vie quotidienne. Alors je crois qu'effectivement, pour ce qui concerne les sciences sociales, dans ce domaine, il faudrait faire un effort considérable pour impliquer les personnes dans la responsabilité énergétique, parce que pour le moment, c'est absolument pas vu en France. Mais ça rejoint autre chose que je voudrais dire. Monsieur Victor a parlé tout à l'heure d'un baril de pétrole à 300 euros. Effectivement, ce n'est pas dans notre domaine de décider une chose comme ça, mais par contre... S'il y a encore un pouvoir qu'ont les politiques aujourd'hui, à l'heure où les marchés commandent la politique, c'est le pouvoir fiscal. Et je crois qu'en agissant sur la fiscalité, on pourrait faire beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas impliqués par les projets d'économie d'énergie? Je vais donner mon exemple particulier. Je voudrais faire isoler ma maison par l'extérieur. Il y en a pour 30 000 euros. Je dépense 1 000 euros de fuel par an. Donc mon projet, il est rentabilisé en 30 ans. J'espère que dans 30 ans, je serai morte, chers amis, bon. Vu mon âge actuel. Donc je pense que ça, c'est un obstacle. Tout à l'heure, on a parlé du coût d'exploration du pétrole. Il est évident que plus le pétrole est cher et plus on a intérêt à en trouver et plus c'est rentable d'en trouver, de la même façon, plus l'énergie est chère et plus c'est rentable de l'économiser. Il y a aussi un autre plan qu'on n'a pas du tout abordé, c'est le problème de la dissémination de l'habitat. On a parlé tout à l'heure dans le Poitou-Charentes des coûts de déplacement qui sont effarants. Bon, je suis vraiment étonnée de voir le nombre de personnes qui se déplacent, par exemple, entre Neuville et Poitiers tous les matins. Pourquoi est-ce que les gens habitent si loin? Parce que les terrains sont devenus hors de prix en ville. Qu'est-ce qu'on attend pour interroger les politiques sur la politique foncière? Il y a des élections dans peu de temps. Comment se fait-il que maintenant, il n'y ait plus que les riches qui puissent se loger dans les centres-villes? Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas du collectif intelligent au lieu de disséminer de l'individuel sur tout le territoire, etc., etc. Bon, je m'arrête là.
Merci. Je pense que c'était plusieurs points très importants et que vous avez bien résumé. Alors peut-être, Laurence Reynaud, sur la question de la responsabilisation des populations et des écoquartiers. Alors il y a des grandes différences selon les écoquartiers, j'imagine. Mais est-ce que vous avez aussi constaté cette difficulté?
Il y a des logements sociaux dans... Enfin, tous les écoquartiers, je ne les connais peut-être pas tous. Enfin, ceux que je connais, on cherche à avoir une mixité aussi. Il y a un projet social et il y a des logements sociaux. Alors, c'est vrai qu'au départ, l'investissement vis-à-vis des causes écologiques n'est pas le même. Mais bon, l'idée quand même, c'est d'un phénomène d'entraînement qui, petit à petit, en tout cas dans les logements sociaux des écoquartiers, un comportement évolue plus vite en faveur d'une certaine sobriété et d'un usage différent des techniques. Mais oui, c'est sans doute différent selon aussi la culture globale et le pays dans lequel se trouve, ou la ville dans laquelle se trouve l'écoquartier. Mais c'était un phénomène intéressant de voir qu'il y avait une évolution et que, bah, dans le cas que je citais tout à l'heure, les anciens écoquartiers comme Bedz ou Vauban, il y avait une évolution du comportement des gens qui habitaient les logements sociaux qui était différente dans l'écoquartier et dans la ville. Bon, c'est loin d'être des exemples parfaits et j'ai évoqué quelques problèmes qu'ils posaient. Et le comportement des plus motivés est loin d'être exemplaire aussi. Des gens qui ont choisi de vivre dans ces quartiers, qui sont à l'origine du mouvement associatif, donc vraiment des militants de l'écoquartier, sur la mobilité par exemple, ont extrêmement mal à accepter les normes qui essayent de se mettre en place dans ces quartiers sur la mobilité et de se passer de leur voiture. La mobilité, c'est le gros problème, mais dans d'autres comportements aussi, la chaleur dans le logement... certains aiment avoir plus que 19 degrés, et, bon, ce qui implique parfois une surconsommation.
Très bien, merci. Alors, on va continuer sur un deuxième point abordé par madame, et je passerai aux autres questions rapidement. Sur la question fiscale, c'est quand même une question cruciale. Alors, comment est-ce qu'on peut, par l'aspect fiscal, peser sur les choses, faire en sorte que, par exemple, on consomme de moins en moins de produits pétroliers, donc et qu'on passe progressivement vers des économies qui produisent moins de CO2, par exemple.
Oui,
énergies qui produisent moins de CO2.
Ça revient au débat sur la fameuse FEU, la contribution climat-énergie, comme on l'appelait à l'époque. Tout simplement, par rapport à ce que vous indiquez, madame, très concrètement, ça revient, plutôt que de chercher de passer sous les barres en se disant on veut optimiser, on veut gagner les prix, tout simplement, ça correspond à faire remonter les barres de façon à rendre rentable. Vous parliez d'une optimisation technique ou autre. Et tout simplement, on remonte les barres, tout à coup, il y a un paquet de techniques et d'énergies renouvelables qui deviennent tout à fait rentable et tout à fait intéressante. Hein. La taxe carbone, comme on l'appelait, ou la contribution climat-énergie, ça revient à ça, très concrètement, hein, pour vous donner une idée. C'est vrai que c'est une contribution. Je crois qu'il y a eu un enjeu, un raté en termes de perception aussi et de communication autour de l'outil. Parce que bien évidemment, ça ne peut pas se faire sans mesures sociales corrélées. On avait commencé à faire des premières estimations avec notre partenaire l'ADEME sur l'impact que ça pouvait représenter à l'échelle des collectivités locales et des montants qui pouvaient tout à fait servir à des personnes qui risquent d'être touchées très très durement par une augmentation du coût de l'énergie. Et là, on va parler de l'enjeu qui est majeur en région Poitou-Charentes, c'est l'enjeu de la précarité énergétique. On a commencé à aborder cette question-là. Au niveau national, on dit statistiquement, ça touche plutôt des personnes plutôt âgées, propriétaires de logements, qui vivent en milieu rural. On a décrit une bonne partie de nos habitants de la région Poitou-Charentes. Donc nous, on a réalisé des estimations qui montrent qu'on... le risque de précarité énergétique sur le simple coût de la facture énergétique pour chauffer son logement est un enjeu crucial dans la région Poitou-Charentes. Et on ne parle même pas de l'enjeu des déplacements qui est également majeur. En région Poitou-Charentes, on se déplace, on fait en moyenne plus de kilomètres que dans le reste du pays pour se déplacer. Donc on parle, nous, de cette double peine qui n'est pas une vue de l'esprit. On n'est pas sur du moyen terme, on ne se positionne pas dans 20 ans. La précarité énergétique, c'est aujourd'hui, déjà au niveau du logement. Pour des déplacements, c'est demain, mais ce n'est pas après-demain. Et vous avez raison, c'est, dans notre région, il faut se poser cette question-là, au niveau local. C'est un enjeu fort.
Très bien. Avant madame, monsieur là-bas qui lève la main depuis un bout de temps. Désolé. Hein. Oui. Pardon, je donne le micro. Alors, Anne Bonnefoy.
Bonjour. Vous donnez une information, on organisait le conseil de développement responsable de la ville de Poitiers, je ne sais pas si Jam, c'est là, non, il est reparti, des conférences avec Sylvain Allemand. Et on a fait venir des conférenciers et il va y avoir les actes qui vont paraître bientôt. On a une conférence à précarité énergétique. Donc c'est pour vous dire que ça vous intéresse. Vous pourrez demander les renseignements à l'espace Mendès France. Je pourrais vous donner les informations. On a fait venir quelqu'un là-dessus, justement.
Merci.
Merci, monsieur.
Oui, bonjour. Oui, justement, pour deux points pour le problème de transport. Moi, j'habite Neuville, effectivement. Si vous sortez de Neuville à 18h pour remonter sur Poitiers, c'est une file continue de voitures. Mais en 56, je venais voir mon père à Poitiers, je n'avais pas besoin de voiture. Je venais par le train à la gare de Neuville. À Neuville, je prenais la Micheline qui allait jusqu'à Parthenay après. Bon, la ligne existe. Alors bon, tout ça, c'est des paroles, c'est bien. Mais la ligne existe. Les trains passent dessus. Donc pourquoi n'omettront pas des Michelines pour voyageurs. Et organiser, bien sûr, à Poitiers, des bus qui vont dans toutes les directions, au CHU, vont à la République, enfin voilà. Ça, c'est déjà un point. Vous comprenez ? Ça peut durer longtemps, tout ça. Mais il y a une voie de chemin de fer qui existe, on ne l'utilise pas pour les voyageurs. C'est quand même scandaleux. À la région parisienne, heureusement qu'on a des RER, des TER et tout ça. Mais là, et quand je vois les gens, effectivement, les gens qui n'ont pas d'argent, mais ils vont à Charret, ils vont s'installer à Champigny-sec, ils vont à Héron, tout ça. Hein. Mais le jour que le pétrole sera à 150, 300 euros, 300, c'est ça, comment on fera ? C'est la première chose. Deuxième chose, quand vous revenez de Poitiers le jour, vous avez plein de lotissements partout. Ça, ce n'est pas des maisons anciennes, c'est des maisons neuves. Vous n'avez pas un panneau solaire dessus. C'est scandaleux. Parce que c'est plus facile de mettre des panneaux solaires que lorsqu'on construit une maison que de faire une maison qui est vieille. Vous comprenez ? Alors vous dites, bon, on va faire l'eau chaude par l'électricité. Non, il faut arrêter ça. C'est-à-dire, à mon avis, lorsque vous faites une maison, que ce soit des lotissements et tout, vous êtes bien obligé de vous raccorder sur les égouts au point de vue sanitaire. Il faut faire avant un bilan énergétique et... quitte à subventionner à 80-90%, c'est du pétrole qu'on n'achètera pas au part, et en plus, ça créera de l'emploi. Beaucoup d'emplois. Voyez-vous ? Alors tout ça, c'est bon, les statistiques, c'est très bien. Mais ça, c'est un autre problème. Et l'autre problème qui est aussi grave pour le déplacement, les gens qui sont à Charret, tout ça, où il n'y a plus un boulanger, il n'y a plus une boutique pour faire des courses, tout ça, il n'y a plus un marché pour ainsi dire. Ils viennent où ? À Neuville ou à Poitiers ? Ils prennent quoi leur voiture ? Alors comment on fait ? Comment on fait quand l'essence s'arrête le moins cher ?
Merci pour cette intervention, je crois qu'on a bien compris les idées. On va prendre une deuxième intervention, puis ensuite on repassera la parole à l'estrade.
Oui, je voudrais revenir sur nos histoires de lignes et de colonnes, en faisant remarquer qu'on peut effectivement bouger les lignes. On va effectivement faire couler un certain nombre de gens. Mais si on continue à laisser la parole à nos grands distributeurs de gaz et d'électricité, comme seul interlocuteur et seule personne qui cause dans le poste, en nous disant bleu ciel, machin truc, et je sais pas quoi, mettez des pompes à ceci, mettez des trucs à cela, on continue à faire n'importe quoi. S'ils ont du fric pour faire des pubs de ce type, qu'on monte peut-être le prix là ici, mais qu'on les fasse payer notre isolation de maison, son isolation à 30 000 et des choses comme ça. Parce que tant qu'on n'a pas, là aussi c'est des histoires de règles, tant qu'on continue à laisser le monopole de la parole à des gens qui nous disent « faites plutôt ceci, faites plutôt cela », au lieu de financer réellement ce qui est là, les deux trucs verts qui sont là. Parce que moi j'avais une vieille grand-mère qui disait « il ne s'agit pas de bien laver, il s'agit de ne pas salir ». On est exactement dans la même histoire. Ça sert à rien de continuer à mettre un fric fou sur le toit, sous le toit. On isole la maison, mais on fait payer à ceux qui ont le fric pour nous dire « Allez acheter notre bleu ciel ou notre gaz machin. »
La vie à ceux qui sont dans la salle. Je ne sais pas s'ils sont là. Non, je pense pas.
Petite réaction.
Oui, je partage. Là, on revient à une question qui a été posée au début sur l'information. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il pouvait y avoir les mêmes moyens mis pour que des personnes type Espace Info Énergie aillent voir chaque... Parce que c'est un conseil neutre, objectif, indépendant en matière d'économie d'énergie, voire énergie renouvelable, parce que ça peut être une solution intéressante, tout à fait. S'il pouvait y avoir la même énergie... au niveau de ce type de service-là où on a une vraie bonne information et c'est pas acheter telle marque ou telle autre ou telle énergie ou telle autre, tout à fait, ça ferait pas de mal. Pour en revenir à ce qu'indiquait monsieur, moi malheureusement, je suis pas la personne qui serait peut-être des personnes à la salle qui pourraient vous apporter un éclairage, mais indéniablement, l'utilisation du train. Nous, ce qu'on peut voir, c'est que souvent, on entend des discours qui disent « mais c'est trop cher », mais moi, je pense que très souvent, on met des horaires domicile-travail bien adaptés et on voit que les trains se remplissent et les bus se remplissent pour peu que les personnes soient pas trouvent des réponses et des applications concrètes à leur déplacement quotidien, que sont massivement les déplacements pendulaires domicile-travail. Tout à fait. Et pour aller plus loin dans ce que vous indiquez, c'est qu'en plus, il y a des rails qu'on a enlevés. On était un pays massivement quadrillé par des lignes de train. Il y a même des lignes qui ont été enlevées. On se dit quel dommage quand on voit que maintenant, on en est à revenir à remettre en place et trouver des solutions pour des... Voilà, il y en a qui existent, mais il y en a en Poitou-Charentes, il y en a énormément qui ont été enlevés et qui auraient été bien pratiques pour des déplacements locaux propres.
Marie-Claude Serré et Laurence Redoux, vous voulez aussi réagir ou...
Je voulais peut-être expliquer pourquoi les EDF Bleu Ciel et Dolce Vita, c'est pas tout à fait parce qu'ils ont vraiment envie de communiquer. Hein. Ils y sont obligés. Je suis désolée, ils y sont obligés par la loi. En fait, on les appelle bien des obligés dans un dispositif qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est issu effectivement de la loi. Donc les grands fournisseurs d'énergie et aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2011, et les distributeurs de carburant sont des obligés dans ce fameux dispositif. Donc vous avez des incitations effectivement à faire des travaux par les fournisseurs d'énergie et par les distributeurs de carburant. Alors vous avez parlé d'EDF Bleu Ciel et vous avez parlé de GDF Suez, mais on a Leclerc, on a Auchan aussi avec des primes énergie aujourd'hui. Donc il faut savoir que ces fournisseurs d'énergie, je vais juste faire une petite parenthèse, quelques minutes, ça vous permettra aussi de comprendre pourquoi il y a des artisans qui se sont développés aussi. Parce que ces fameux obligés, ils ont aussi des partenaires parce que la parole, elle passe dans le poste, mais elle passe aussi par les artisans. Donc ils ont développer des réseaux de partenaires à travers leurs différentes enseignes. Donc dans ce dispositif, ces obligés doivent réaliser ou faire réaliser des économies d'énergie. S'ils ne réalisent pas ces fameux quotas auxquels ils sont obligés, ils vont payer une pénalité financière qui n'est pas du tout négligeable dans le, voilà, dans leur chiffre d'affaires. Donc ils ont tout intérêt effectivement à se dégager de ces fameuses obligations.
Le certificat donc, là-dedans, c'est quoi, il représente quoi?
Donc le certificat d'économie d'énergie, en fait, vous allez isoler vos combles, vous allez faire 80 mètres carrés d'isolation de combles en surtout respectant... on va dire les prescriptions qu'il y a dans le dispositif, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de la réglementation et ne pas se cantonner peut-être à mettre 20 cm et faire peut-être un petit effort et mettre 25 cm d'isolant. Et dans ce cas-là, vous allez dégager des certificats d'économie d'énergie. Et comme vous êtes un particulier, vous ne pouvez pas avoir, entre guillemets, la capacité de déposer ces certificats d'économie d'énergie. Donc, où vous allez ? Vous les allez les céder à l'artisan, ou vous allez peut-être les céder à EDF ou à GDF, ou vous allez aller voir, avant de faire vos travaux, aller voir Monsieur Édouard Leclerc, et vous allez avoir une prime énergie parce que vous allez rentrer dans une, ce qu'on appelle une boucle vertueuse d'une isolation qui est plus performante que la réglementation stricto sensu. Donc la ville de Poitiers fait partie des collectivités hein, qui déposent des certificats d'économie d'énergie, et recherche aujourd'hui aussi un partenaire, voilà, et dégage des recettes pour entamer d'autres actions de maîtrise de l'énergie. Donc ne pensez pas qu'ils veuillent porter la bonne parole, ils sont quand même des fournisseurs d'énergie, mais effectivement ils ont des obligations, et la mention « l'énergie est notre avenir, économisons-la », elle est aussi réglementaire, voilà.
Et la question de madame disait, finalement, ils pourraient payer l'isolation. Est-ce que ça vous paraît tenable?
Alors, quelque part, enfin, je ne dis pas qu'ils les payent. Édouard Leclerc, lui, c'est très clair. Il a une prime qu'il appelle énergie. Donc, ça, c'est plus palpable. Chez EDF ou chez GDF, quelquefois, je crois qu'ils ont des prêts à des taux bonifiés. Ils ont différents montages financiers. Je ne les connais pas tous, hein, mais ils ont différents montages financiers pour, effectivement, engager les particuliers à faire des économies d'énergie et, du coup, à capitaliser des certificats. Donc, ce dispositif, en fait, il y a trois périodes qui sont prévues. La première période est terminée. La première période, elle permettait au mécanisme de se mettre en route. Les objectifs n'étaient pas très ambitieux, mais petit à petit, ces objectifs augmentent. Hein. Donc, ça commence un petit peu... Bon, le marché commence à émerger, hein, puisque la pénalité libératoire, elle est de 2 centimes d'euros par kilowattheure, hein, pour aller rapidement. Jusqu'à présent, on était en gros à la valeur des transactions à 10%. Elle est en train d'augmenter. On va peut-être atteindre 20% à peu près de cette pénalité libératoire. Donc c'est un peu comme le marché du CO2. Hein, c'est quelque chose qui commence un petit peu à prendre. Voilà.
Laurence Reynaud, peut-être un mot sur l'aspect dispersion de l'habitat. Alors je ne sais pas si les écoquartiers sont une réponse quelque part à cette dispersion, à la mesure où un écoquartier, c'est justement un regroupement d'habitats pour des objectifs a priori commun. Est-ce que je me trompe ou...
Ça reste trop marginal de toute façon aujourd'hui. Ouais. Mais...
Est-ce que ça peut être une réponse plus, enfin, qui pourrait se, non pas se généraliser,
ça reste
mais
dans
augmenter
une politique en... de ramener vers la ville, effectivement, de concentrer la population dans des modes, enfin, arriver à avoir une ville qui a un développement relativement peu moins consommateur d'énergie, mais qui puisse rassembler un maximum de pertes, éviter effectivement la dispersion des logements. Mais quand, ce qui est frappant dans vos chiffres, c'est que plus de 40% finalement de la consommation d'énergie, ça vient du tertiaire et de l'habitat. Donc là où effectivement il y a des solutions locales à mettre en œuvre. Donc quand on pense à une solution, enfin une transition énergétique, elle se passe peut-être par des petits, des éléments comme ça très, très locaux. Et on a déjà résorbé 40%, enfin on s'occupe déjà de 40% du problème et non pas dans des grandes solutions et des grandes énergies de substitution.
Merci. Donc, une intervention ici, puis je crois qu'on va devoir malheureusement s'arrêter.
Merci. Bonsoir à tous. Je suis un citoyen ordinaire. Je m'intéresse aux questions d'énergie. Je lis pas mal de trucs. Je vais voir des conférences. Ça m'intéresse. Et pour l'instant... on va raconter une petite histoire. Enfin, moi, je vais raconter ce que j'ai compris de l'énergie sous forme d'une petite histoire, si vous voulez bien. Alors, peut-être que. Ouais, là, c'est court, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, en fait, voilà un peu le résumé de ce que j'ai compris pour l'instant, d'après les lectures que j'ai vues. Donc, voilà, c'est ma petite histoire. Donc, c'est la Terre, elle se promène, et puis tout d'un coup, elle rencontre une copine à elle qu'elle n'avait pas eue depuis assez longtemps. Alors, évidemment, elle se parle de leur vie, des petits malheurs, des petits bonheurs, tout ça. Et puis. La Terre dit à sa copine bah écoute là en ce moment ça va pas mal tout ça, j'ai juste des petits coups de chaud et puis je me sens un peu fatigué, voilà c'est tout quoi. Et je suis allé voir le médecin et puis alors je lui ai expliqué tout ça, il m'a consulté, il m'a dit bah je sais pas, il y a pas une météorite qui est passée par là, non enfin j'en ai eu il y a quelques années, enfin il y a assez longtemps, maintenant c'est passé, je vais plutôt bien. Voilà. Donc le médecin examine attentivement la planète et puis là, il lui dit « Moi, je crois que vous avez attrapé le PIB. » Alors la planète, elle dit bah, « c'est quoi ça le PIB ? C'est quoi ce truc-là » Et le médecin lui explique bah, « C'est un petit peu comme un virus, si vous voulez, ça se développe, ça se développe de plus en plus et puis ça a une caractéristique, c'est que ça bouffe vos énergies fossiles, en fait. Donc vous savez ce que c'est, quand on vieillit, on fait un petit peu de gaz, de pétrole, de charbon. » Et là, ben, le PIB, il grandit, puis est en train de vous bouffer vos énergies fossiles, et puis vous bouffe aussi un petit peu votre biodiversité, quoi. Bon, alors évidemment, la planète, ça l'inquiète un petit peu, mais là, le médecin se veut un petit peu rassurant. Il dit, écoutez, faut pas trop s'inquiéter, parce qu'en fait, ce virus, il est un petit peu idiot. Il croit déjà qu'il va pouvoir se nourrir indéfiniment de votre énergie fossile, même si elle diminue. Donc déjà, oui, il est un petit peu bête, ce virus. Et puis également, le virus, il pense que même s'il y a une énergie fossile en déclin, il va pouvoir se nourrir d'autres choses, je ne sais pas quoi, d'autres énergies qu'on n'a pas encore inventées, etc. Bon, bref, la petite planète, elle raconte ça, la Terre raconte ça à sa petite copine, et puis bon, elle parle d'autres choses, qu'il n'y a pas que ça dans la vie quand même, donc elle parle de tout, de philosophie, de retraite, etc. Et puis elle se quitte, bien sûr. Et puis là, au moment de se quitter, la copine de la Terre lui dit « Ouais, tu sais, ton truc là, dont tu me parles, le PIB et tout ça, moi, tu sais, t'inquiète pas, je l'ai eu il y a très très longtemps, mais t'inquiète pas, ça passe tout seul. »
Merci, bon, je ne sais pas si c'est une conclusion. Je vous propose, alors, Jean-Christophe Victor a dû s'absenter. Je ne sais pas si vous voulez donner un mot de conclusion. On peut difficilement conclure un sujet pareil. Mais alors, peut-être tirer quelques lignes, quelques perspectives, puisqu'on était parti d'une perspective très mondiale. Alors, repartons de la région et essayons peut-être de tirer quelques lignes un peu positives, pour reprendre certains termes qui ont été souhaités par certains intervenants, pour ne pas rester trop... Dans je broie du noir et je me suicide demain. Qu'est-ce que on peut espérer peut-être pour la région ? Alors restons dans la région. Amandine Loeb.
Je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites par Jean-Christophe Victor, qui s'appliquent très bien en région. C'est que on a beaucoup de cartes en main, hein, en tant que citoyen. On peut voter. On peut adopter des comportements qui visent à peut-être mettre un pull de plus. Sans forcément se culpabiliser aussi. Je crois que l'enjeu énergétique nous met dans un changement de modèle. On parle de transition énergétique, de toute façon, qui est inévitable. Donc ça, c'est sûr, c'est certain. Soyons bien informés et sachons nous dire que dans ce mouvement inéluctable, donc ça, il faut l'intégrer, mais c'est vrai que ça demande un effet de choc parce que nos ressources sont limitées, mais c'est seulement une génération toute récente qui le sait et qui a du mal, un petit peu comme un boxeur sonné, à intégrer ce fait. Mais une fois qu'on l'a intégré, on se dit, bah, raisonnons différemment. On raisonne en économie monétaire au quotidien. Peut-être qu'on va se mettre à comptabiliser le carbone demain. Certains le commencent déjà. Et ma foi, c'est une nouvelle façon de penser. Mais comme toute nouvelle façon de penser, le démarrage est un petit peu difficile. Mais après, moi, je pense qu'on a suffisamment de ressources pour pouvoir y arriver. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup d'enjeux devant nous, mais je pense que techniquement, on sait déjà faire un paquet de choses pour pouvoir disposer de logements performants. Soyons malins aussi dans notre façon de jauger aussi des outils financiers. Une contribution climat-énergie, comme on a parlé tout à l'heure, un pendant indispensable et à marteler et essentiel, c'est la redistribution. C'est-à-dire utiliser des nouveaux outils. J'ai pas fini tout à l'heure quand je parlais du chiffrage de l'impact bénéfique à disposition des collectivités grâce à ce système de contribution basé sur le poids des ressources fossiles. Ça présentait des bénéfices à plusieurs millions d'euros à disposition des collectivités pour pouvoir mener des programmes d'économie d'énergie en direction des plus démunis. Donc je pense que ça fait partie des dispositifs. La solution, je pense que c'est pas une personne isolée qui l'a, bien sûr, c'est tout le monde. Et encore une fois, le particulier, pas que le particulier, bien sûr. Le particulier, c'est plutôt que chacun, comment faire avec cette affaire d'énergie, trouver des ressources et moyens de trouver un vecteur de bien-être aussi, en se recentrant aussi, en pensant aussi à l'essentiel. Quand on fait des études sur de Stiglitz sur la prospérité, ce que veulent les gens, parlons bien-être, parlons prospérité, on se rend compte que des valeurs familiales ou autres, toutes les valeurs finalement qui font que des personnes trouvent leur bien-être, sont pas du tout incompatibles avec des mesures d'économie d'énergie. Donc bon, ça fait partie des choses, mais qu'on parle un peu plus de ces études-là que de travaux peut-être ou de grands discours ultra catastrophiques. Il faut être vigilant, mais lucide.
Merci Laurence Reynaud. Alors peut-être un mot de
pour prolonger. Un mot de la fin. Oui. Conclusion, je dirais ce que disait Jean-Christophe Victor, c'est qu'il faut peut-être mettre plus en évidence les cas même micro qui marchent, plutôt que de brandir la peur ou les impasses. Et finalement, comprendre qu'il n'y a pas forcément de solution clé en main, ni de solution miracle, mais qu'il y a des petits pas de fourmis et que voilà. Il y a des peut-être plus positifs dans la communication.
Il faut les faire connaître en l'occurrence.
Oui.
Marie-Claude Serré pour conclure.
Mais moi, je crois aussi à ce que dit Monsieur Victor, hein, c'est-à-dire que chacun contribue en fait contribuer dans un sens positif, hein, qu'on soit juste consommateur ou qu'on soit dans la filière. Je crois beaucoup aussi aux choses qui vont émerger. Hein. On parle des tensions sur le gaz naturel. On voit bien que le biogaz, par exemple, commence à sortir. Enfin, on va pouvoir avoir des installations de biogaz qui vont être réinjectées dans le gaz dans les réseaux de gaz naturel. Donc, je crois beaucoup. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont sortir. C'est vrai que voilà, on a envie d'être optimiste, quoi.
Très bien, merci à tous. Donc, je vous rappelle que le forum continue toute la semaine. Le programme est dehors. Merci à tous et bonne soirée.